un phénomène inquiétant à présent. De plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés dans un établissement psychiatrique. Bazinga.
Il ne se nourrissait plus, il s'est enfermé dans sa chambre 3 semaines durant en se prenant pour son avatar, un elfe de la nuit. Bazinga.
On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bazinga.
On vous citait Mediapart, qui se dit site d'information. Ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots. Bazinga.
Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg.
Bazinga!
Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
Bazinga!
Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
Bazinga!
De manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
Bazinga!
Wouh! Salut les geeks, les nerds, les barbus, les no-life, nos poditeurs effrénés de cette merveilleuse communauté qu'est le podcast amateur francophone. Bienvenue dans Bazincast numéro 7.
8.
8.
8.
8.
9.
8.
10. 11. 1000.
Les deux épisodes sont enregistrés en même temps.
Ça faisait longtemps.
Mais ils n'ont pas le même numéro.
Exactement. C'est magique. Avec nous ce soir, nous avons Liliane. Bonsoir Liliane.
Bonsoir.
Nous avons Xil.
Hello.
Nous avons Trollin.
C'est moi.
Bien. Nous avons Crélin.
C'est moi.
Et nous n'avons pas Micha.
C'est moi.
C'est pas moi. Allez, tous ensemble.
Elle nous a abandonnés parce qu'il n'y a pas assez de gens.
Faites qui, revenir Micha.
Qui mettent des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles. Comment ça va tout le monde? Ça va, pas trop fatigué?
Ça va bien.
Bon.
On fait le 9 et le 10 à la suite après.
Non, ça va, je pense qu'il serait temps
si
que
on
je
en
dorme.
Attends, ça fait... Ouais, on pourrait en faire une dizaine d'un coup, ce serait pas mal.
Ouais, puis j'ai quand même mes bagages à faire avant de partir.
Ce que je pense, c'est que pour la saison 2, on les fasse tous d'un coup. Et puis on revienne un an après pour la saison 3.
Ouais, comme ça on n'a pas trop à devoir ça.
Faudra qu'on axe pas mal ça sur de l'actu. Hein. Je pense qu'on fait pas assez d'actu.
D'ailleurs, nous allons d'abord avoir un peu d'actu. Quand je dis un peu, c'est un peu.
La semaine dernière, Louis XIV a-t-il changé de maîtresse?
qui seront faits rapidement par moi. Et enfin, nous aurons une petite rubrique de Krilin qui va nous parler de...
D'explo urbaine.
Non, c'est pas vrai.
Tu vas le faire,
depuis le temps qu'on en a parlé. Ouais.
C'est pas une blague. Je suis assez déçu. Hein. À la base, je voulais pas faire ça. Je voulais continuer à annoncer l'explo urbaine et jamais la faire, mais j'ai eu un contretemps, donc je suis obligé de faire ça. Je suis très déçu.
Limite,
je vais annuler ma chronique juste pour pas.
Last minute.
Pour pas...
Et ça va être quoi ton nouveau fil rouge? Alors, le truc que tu annonces et que tu
feras... nouveau running gag.
Voilà, ta prochaine rubrique après, ce sera quoi?
J'ai bien une idée, mais elle est répréhensible par la loi.
Teaser. Et après ça, nous aurons une petite rubrique culture dans laquelle nous parlerons de jeux de société, je crois.
Tout à fait. De jeux de société avec des mécanismes non mathématiques, non bluff, plein de noms, quoi.
D'accord.
Ouais, mais oui, d'autres choses qu'on n'a pas encore trouvées.
Enfin, en gros, ce sera constructif, c'est créatif, c'est imaginatif. Y a
tout à fait.
Imaginatif, exactement. T'es trop fort.
Des jeux
on dirait que tu bosses dans le jeu vidéo tellement t'es fort.
Et encore, tu me verrais dans le jeu vidéo, je serais encore plus fort.
On remercie particulièrement tous ceux qui viennent nous mettre plein de petites remarques sympas sur le site et particulièrement Monsieur Équitable qui m'a raconté une petite anecdote hier.
C'est un mec qui rentre dans un bar.
Non, non, en gros, c'est
l'histoire de la pute et du concours.
Qui fait médecine et qui écoute Basingcast en révisant, je sais pas comment très bien comment il fait, mais.
pendant... Je suis sûr que ce soit comme ça qu'on a son année, mais.
Et pendant qu'il révise donc dans une bibliothèque, je crois que ça devait être à Beaubourg, un truc comme ça, et qui, en écoutant sûrement une blague extraordinaire de Xil, a explosé de rire au milieu de la.
T'es sûr que c'est pas juste ses écouteurs dans lesquels Xil a explosé de rire et ça a foutu le bordel dans toute la bibliothèque.
Non, il y a la compression pour ça. Et qui a explosé de rire au milieu de la bibliothèque, ça a bien fait. Sauf qu'il était en train en fait d'étudier des coupes anatomiques de vagin. et donc tout le monde s'est retourné, a vu qu'il était en train d'étudier des planches anatomiques de vagin et il s'est marré comme un con devant et donc il est passé pour un con devant. Tout le monde grâce à Basingcast. Merci monsieur Équitable de partager tes... Peut-être qu'on l'invitera pour qu'il nous parle un peu de trucs médicaux.
Comment il l'a vécu.
De trucs médicaux, merci.
Et enfin, on est dans notre punchline, c'est-à-dire le podcast réformé P4.
Exactement.
C'est vrai.
Oui, Xil.
Alors, on rappelle aussi vite fait qu'il y a toujours le sondage sur le site.
C'est dingue, il n'a pas disparu depuis une heure.
Ouais.
Mais non, ça fait 2 semaines. Tu es passé dans une faille temporelle.
Vous pouvez toujours y répondre. On attend toujours vos réponses. Il y a toujours un tirage au sort bientôt.
Avec un cas de mystère. Et le tirage au sort du mois, par contre, ça, on sait ce qu'on gagne dessus. Ce sera le bouquin de philosophie en série qui est assez sympa et que je dois être normalement à Bali en train de lire et qui doit être passionnant. Et je vous l'envoie après.
Donc, on vous remercie d'avoir été nombreux durant les deux semaines passées à répondre au sondage. Et on espère que vous serez encore plus nombreux durant ces 2 semaines qui s'annoncent.
Exactement. Et ben c'est parfait. D'autres petites annonces? Non, c'est bon, comme d'habitude. Non, très spécial.
Non, on attend ta voix avec impatience.
Ma voix suave.
Mais faites revenir Micha.
C'est quoi le rapport?
Voix suave, je pense.
Après avoir perdu 3 oreilles.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Nous passons.
Ça y est, nous sommes repassés dans le futur.
Aux news.
Est-ce que nous sommes toujours dans 2 semaines, dans 4 semaines, je ne sais pas.
Nous passons aux news et un sujet d'actualité qui, peut-être que cette fois-ci, mais après un mois, le Japon a vraiment explosé ou pas. Mais en tout cas, il s'avère que j'ai repéré un post sur le blog du poste.fr qui a disparu après que je l'ai lu étonnamment et qui parlait du boom de l'exportation de burkas imperméables vers Tokyo. Il s'avère que les tokyoïtes ayant peur des retombées radioactives ont vraiment spammé un site de commande de burkas pour pouvoir justement, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée pour s'équiper, pour se protéger des pluies et des tombées et des radioactives. Oui, Xil.
Je dis une connerie ou n'importe qui peut poster sur le poste?
Non, mais là, c'est vraiment un article.
N'importe qui fait des articles. Hein,
s'il a été retiré, est-ce que c'est pas justement parce que c'était bidon?
Ah non, mais je pense que c'est. Ouais, peut-être, hein, mais en tout cas, c'est très intéressant. Ça m'a bien fait marrer, moi.
Donc, c'est peut-être des news, c'est
news
peut-être
numéro
des blagues.
De...
On
sait pas. Non, mais c'est une information intéressante. le post.
Alors, bien que fausse.
Non, il faut que vous sachiez qu'au moment où on enregistre, le 1er avril n'est pas encore passé.
c'est un blog où n'importe qui peut poster des articles de news et qui ensuite sont référencés sur Google News.
Ouais.
C'est quand même,
tout à fait. Ouais, c'est de la merde le post en fait. Enfin, pardon.
Ah bah bravo.
C'est
pas
aussi il y a Exprimeo ou un truc comme ça qui est pareil.
Non, le post, le problème,
qui est squatté
c'est
par
c'est
les Philippinistes d'ailleurs.
C'est que c'est un mélange de à la fois d'un site d'info avec des vrais journalistes et d'info participative. Et résultat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent que quand ils veulent faire une bonne blague, ils peuvent aller sur le post. C'est comme ça qu'ils ont annoncé la mort il y a pas longtemps de je sais plus qui.
Oui, Liz Taylor, c'est vrai. Hein.
C'est... Non, Liz Taylor, c'est vrai.
Charles Aznavour, c'est pas vrai, par contre.
Putain, pourtant, ça ferait du bien au monde.
Ouais, mais pas beaucoup à l'économie française. Hein. Bon, c'est quand même notre chanteur qui s'exporte le mieux.
Mais tout à fait, si jamais il meurt, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Ça va booster les ventes.
C'est notre seul concurrent contre Justin Bieber. Il faudrait qu'on fasse un épisode sur Justin Bieber. D'ailleurs, il faut annoncer que le film de Justin Bieber a dépassé en film musical le film de Michael Jackson en nombre de recettes. Donc c'est quand même assez hallucinant.
Et oui, finalement, c'est deux personnes qui auraient été vachement connectées l'une avec l'autre.
Pardon. C'est classe. C'est très très classe. Ah là là. Bon, allez, news suivant.
Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire à propos? Pourquoi ça te paraissait intéressante? Juste que les Japonais achètent des burkas.
Mais c'est drôle. C'était une news blague, en fait.
C'est ma vengeance parce que je ne peux plus y aller. Je vais parler.
Tiens, d'ailleurs, sans déconner, tu y vas plus. C'est toi qui l'as choisi?
Non, en fait, c'est la pression des. En fait, bon, c'est vrai que c'est un sujet un peu intéressant, vu que ça me concerne. Non, c'est plus en fait la pression familiale en fait. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui considère qu'il n'y avait pas énormément de risques après avoir étudié les choses.
Et pourtant, Pio fait parano.
En connaissant, oui, mais au niveau voyage, je considère que surtout dans les pays où je vais,
je suis d'accord avec toi. Mais...
on est obligé de prendre des risques et que analyser d'un point de vue franco-français, il y a toujours une question. J'ai toujours réussi à convaincre ma famille que je suis dans un endroit où il y avait des coups d'État et des endroits où il y a des maladies pas possibles, pas de transport, etc.
D'ailleurs, toujours après que tu passes.
Ça, exactement. Ça, j'ai réussi à gérer. Mais il y a quelque chose en France qui est la radioactivité, qui est Tchernobyl, qui fait que j'ai l'impression que la génération de nos parents, et même ceux après, il y a un traumatisme fort et ce qui fait qu'il n'y a, aucun débat pragmatique rationnel. Il n'y a aucune rationalité. Donc, au bout d'un moment où j'ai réussi, que je n'arrivais pas à les convaincre, et où il y avait une telle pression de mes frères et sœurs, ma famille, mon entourage, que je savais que, en gros, si j'avais un cancer dans 15 ans, ils disaient...
D'un autre côté, faut avouer qu'au vu des évolutions du truc, c'est pas non plus complètement safe.
Oui, mais en même temps, je pense qu'au moment où vous allez écouter ça, ce sera totalement...
Oui, je pense que déjà, ce sera résolu, il y a des choses qui auront changé, mais je pense qu'au-delà de la radioactivité, à un moment, c'est quand même relativement anecdotique si tu vas pas dans le mauvais endroit, mais par contre, il y a je sais pas ce que tu avais prévu comme circuit au Japon, mais il y a un tas d'endroits qui sont dévastés juste par le tremblement de terre et le tsunami.
Oui, le but, ça c'est le nord. Et le but,
c'est un peu ton voyage, quoi. Enfin, oui, si t'avais prévu des trucs.
Et surtout, aller faire des touristes dans des zones dévastées, c'est pas sympa. Moi, je considère que si tu peux le faire, mais pas aller dans ces zones-là pour supporter l'économie du pays, c'est quand même, tu dois maintenir ton voyage. Et j'allais pas dans les zones, et au pire, tu t'adaptes. Et moi, j'allais plutôt au sud et à Tokyo. Après, comme c'est une question de rationalité, c'est pas possible de. La situation est à peu près stable, même si ça peut évoluer, mais t'as déjà ton billet de retour. Tu sais à peu près comment tu peux quitter le pays, tu peux aller dans le sud, il y a plein de moyens de te débrouiller, mais c'est quelque chose. Et truc où c'est quelque chose, il n'y a pas de rationalité en France. On voit d'ailleurs le débat que ça a lancé.
Je suis d'accord avec Zil sur le fait que, vu la tournure des événements et la manière dont c'est en train de se développer, c'est pas.
Bon, ça s'est développé, donc ça s'est développé.
Mais
Maître Capello aussi est mort.
C'est vrai.
Non, mais là, en fait, c'est une histoire de futur et de passé, en fait, vu qu'on est, est en train d'enregistrer 4 semaines dans le futur.
En vrai, peut-être au moment où on est en podcast, on s'est voyage dans le temps. Donc c'est en train de se.
Ah non, il
n'y
a pas. À l'époque où on enregistre, il n'y a même pas encore eu le tremblement de terre. Hein.
Est-ce qu'on va les prévenir?
Le podcast qui transcende l'espace-temps.
Exactement.
Donc, c'est vrai que le problème, c'est pas tant les radiations que la contamination. Et là, c'est-à-dire que toutes les particules radioactives sont en train de se balader, d'aller dans les sols et compagnie, et tu commences à arriver dans les. C'est-à-dire que si tu vas juste après le problème, c'est pas trop grave.
Il n'y a pas eu l'accumulation.
Mais plus t'attends, plus ça s'est transféré d'abord au.
Nappe phréatique.
Non, et puis aux végétaux.
C'est surtout aux végétaux, voilà, puis et ensuite aux animaux, mangés, etc. Exactement. Et au final, ça devient de plus en plus dangereux. Même si les radiations en elles-mêmes et la nature même c'est de moins en moins grave, c'est plus les side effects, tout le reste qui
exactement.
Fait beaucoup plus.
Parce que là, par exemple, on détecte très peu de radiation dans l'air, mais ça va être l'effet d'accumulation sur les sols avec les pluies qui vont contaminer, puis après la chaîne alimentaire, puis après ça. Là-dessus, on est tout à fait conscient.
Au moment où on diffuse ce podcast, arrêtez les sushis.
Non, mais ça m'a tellement fait marrer les reportages à la TF1 et France Télévisions et compagnie dans les JT. Aller dans le 13e, aller voir les gens qui bouffent des sushis dans des restos chinois. Salut, ça vous inquiète pas de manger des sushis alors que Fukushima?
Alors, ce qu'il faut savoir...
Ils ont fait ça.
C'est TF1, c'est pas de l'information, mais il y a aussi un truc que...
Vous citez TF1, vous dites que c'est une chaîne d'information.
laissons Krillin terminer.
Moi, j'ai appris quelque chose il y a peu de temps. Wow. C'est que tout, oui, ça m'arrive encore aujourd'hui d'apprendre des choses. C'est rare, mais j'apprends encore parfois. C'est que tous les, tout le poisson qui est pêché dans le monde transite par deux ports, dont l'un est le port poisson de Tokyo et l'autre est en Californie, je crois. Donc ça veut dire que le poisson qui est pêché en Bretagne et qui est acheté en Bretagne passe par l'un de ces deux ports. C'est complètement con.
Alors,
non, apparemment, c'est ouais, là, de même que tout.
Les trucs qui arrivent le matin à Rungis, direct de la Bretagne, de la Normandie.
Là, tu parles des pêches de grand fond par les tankers, les machins, les bateaux-usines. Mais toute la pêche faite par les bateaux, enfin moi je vais dans tous les ports de pêche bretons, j'y vais souvent parce que j'achète directement souvent mes produits là-bas, ou je les ai fait visiter à des touristes.
Aux producteurs, oui.
Et au final, c'est des chaînes qui sont très très locales et qui vont directement à Rungis. Mais c'est assez vrai pour tout ce qui est les bateaux tankers, les bateaux de pêche usine, qui sont des bateaux français, mais qui sont stationnés à l'étranger, dans les eaux internationales, ou qui vont dans le Japon, et là où il y a beaucoup de transit.
Quand t'achètes du thon ou du saumon, quoi.
Oui, ou des poissons de grand fond.
En l'occurrence, le thon, ils viennent le chercher chez nous.
Non, les poissons des grands fonds, même les... Bref. Donc, là-dessus, il faut plus acheter local.
Sauver le thon rouge.
Surtout que le thon rouge qu'on mange en France n'est pas celui de la même espèce. Donc, enfin, bref. Passons à la news suivante.
Sinon, de toute façon, les sushis français n'ont pas de goût.
Il faut trouver des bons restos. On vous passera des adresses. Repassons un petit jingle parce que vous m'avez pourri mon lancement. Deuxième blague de la soirée, je vais parler du PS.
Alors, la société de distribution ou...
Donc le PS, il y a eu un petit communiqué du bureau national du PS, je ne sais pas très bien ce que c'est, à propos de... En gros, apparemment, en ce moment, ils sont en train de faire un peu un shadow cabinet à la anglo-saxonne, où en gros, ils font des contre-propositions.
Ils essaient de faire plein de trucs, mais ils ne font pas grand-chose de toute façon.
Qui parlait de France Télévisions, et donc là c'était plutôt assez intéressant. Donc un peu des conseils sur eux, qu'est-ce qu'ils feraient, etc. Donc il y avait 2-3 points qui m'intéressaient un peu moins.
C'est beaucoup le conditionnel.
à savoir réserver beaucoup des fonds publics pour financer plutôt des médias et des émissions qui sont indépendants. Et alors là, par contre, un truc sur lequel je ne suis pas moins d'accord, mais surtout qui ont des petites parts de marché. Ils voulaient mettre la pression sur France Télévisions comme quoi leur mode de diffusion sur Internet n'était pas assez développé, ce qui est vrai pour certains, pas assez pour d'autres. Ils ont parlé de Plus. Par contre, eux, ils considèrent qu'il doit y avoir une plus grosse centralisation, donc en gros à la PS, quoi, c'est-à-dire tout centraliser et avoir un portail unique pour tout France Télévisions, même s'il y a Plus, mais en gros encore plus centralisé. Et ce qui m'intéresse vachement plus, c'est qu'ils voulaient qu'il y ait une politique, apparemment c'était le point le plus difficile à faire passer au PS, une politique volontariste de mise à disposition de certains programmes dans des conditions permettant leur réutilisation libre et gratuite dans une démarche de co-création avec les internautes.
Wow.
Ça rejoint un peu le débat qu'on avait eu dans l'épisode 2 sur les médias. À savoir le manque de licences libres et de beaucoup de choses en licence libre pour que ça puisse être réutilisé par des gens comme nous, pour créer du contenu, pour en parler, etc. Donc ça, c'est déjà le cas dans beaucoup de médias. Et le plus gros, moi, ce qui me gêne le plus souvent, c'est les documentaires. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de documentaires en France, malheureusement. Et en plus, les documentaires ont un aspect légal et l'aspect droit d'auteur qui est assez particulier, dans le sens où les gens qui font des documentaires ont accès à des données historiques et à beaucoup de données qui sont allées glaner chez certains ayants droit. Et les ayants droit leur ont toujours donné généralement un droit de diffusion limité dans le temps. Donc, par exemple, quand vous regardez Les Racines et des Ailes ou énormément de reportages, il faut savoir que vous ne pourrez pas les retrouver à jamais. C'est-à-dire que le truc est valide pendant un certain temps. Il ne sera jamais libre. Vous pouvez acheter le DVD qui, généralement, vous coûte très cher. Et ils sont rarement mis aussi en disposition longtemps sur Internet. Parce qu'il y a plein de petits trucs où il y a des droits très forts dans ces reportages qui ne peuvent pas, en gros, réutiliser librement dans le temps. Donc, à la fois, je pense, d'une manière générale, ce serait bien que, par exemple, France Télé... que tous les JT, tous les machins, tous les reportages soient libres de droit, que ça puisse être réutilisé par plein de gens comme nous, et aussi qu'on revoit peut-être comment sont faits les documentaires ou la loi là-dessus pour qu'on puisse vraiment diffuser plus les docus en France. Je sais pas si vous avez une petite réaction là-dessus.
Mais ça me semble très bien et très positif ça me semble
étonnamment positif, ouais, sachant que
ce qui me semble vraiment étonnant, c'est que ce soit toi qui annonce une bonne idée du PS.
Ouais, mais bon, les bonnes idées du PS
Écoute, j'ai un certain respect pour Martine Aubry, même si je ne partage pas beaucoup de ses opinions politiques.
J'ai aussi beaucoup de respect pour Martine Aubry.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi co-création. Alors là,
c'est vrai qu'elle tient bien l'alcool.
Par contre, j'ai plus peur qu'elle.
Te laisse pas perturber, mon petit piou.
Non, j'allais sortir un truc bien moche. Oui, il y a un truc où c'est la réciprocité, où là, s'ils veulent dire ça, ça m'inquiète un peu, parce qu'ils parlent de démarche de co-création avec les internautes. Et j'ai peur qu'ils parlent de eux récupérer.
Tout ce que je veux et je te paye pas de droit.
Oui, ou voir ce que font beaucoup de sites d'information, par exemple. Je sais plus si c'était Euronews ou je sais plus qui. En gros, t'as une app liée à ça et tu peux aller prendre des vidéos, leur envoyer directement, leur envoyer beaucoup de contenu. Donc en gros, qu'ils fassent des émissions en reprenant beaucoup de contenu récupéré, glané d'ici de là par des internautes.
Du moment que c'est quelques émissions, c'est pas gênant.
Ça peut être pas mal, c'est purement une source d'information. Voilà, mais si ça devient, il y a des émissions qui font ça, genre les émissions LOLCATS. Ce n'est peut-être pas nécessaire, on va dire.
Et pourtant, quand tu regardes Morandini et compagnie, c'est que ça. Hein. C'est que les. Ouais, les
c'est ça que j'ai peur.
Enfin, c'est pour ça qu'on ne regarde pas Morandini, en fait.
Non, mais il y a des gens à mon travail qui se prétendent de gauche qui aiment beaucoup Morandini. Hein.
Non, voilà. Donc, ça peut être à la fois très positif et à la fois, j'ai peur qu'il puisse penser un peu ça.
Si un jour il l'entend et il saura tout ce que je pense.
En tout cas, de toute façon, aller vers le libre, je pense que c'est une bonne idée. Après, même dans le PS, ça avait l'air d'être la clause qui a le point qui a l'air d'avoir posé le plus de débats et le plus de réticences de beaucoup de monde. Et malheureusement, je pense que même s'ils arrivent au pouvoir, beaucoup de gens qui sont même de gauche et très ouverts n'iront pas jusqu'à. Ne comprennent pas l'intérêt du libre,
le libre
dans ce genre de choses.
Après, je pense que le truc positif, c'est que leur principal allié, les Verts, ont
tout à fait
des chances d'être plus pour ce genre de mesures que le PS. Donc,
particulièrement un gros bisou à Martine Billard, qui est
ma
représentante locale et ma députée préférée, qui était la plus présente lors des débats loi d'Opi et compagnie. On fait des gros bisous à elle. Moi, ce qui me fait un peu peur dans ce truc du PS aussi, c'est que le dernier point dit il faut aussi que au niveau financement pour l'audiovisuel public, on est contre remettre la pub, on aimerait bien supprimer la redevance télé. Ou l'augmenter, ça dépend.
C'est des conneries.
C'est
comme Jean-Paul Huchon qui promet depuis 10 ans qu'il y aura tarif unique sur les transports en commun, quoi.
Ouais.
Et ça fait 10 ans qu'il le promet, il l'a encore promis à la dernière et il le fera jamais. Donc plus de redevance.
Le point qui me fait peur, c'est en fait le point où ils disent que résultat pour se financer, ce serait bien que les chaînes soient indépendantes et puissent vendre des choses, à savoir des produits dérivés. Et des informations, des documents, ce qui va totalement à l'encontre de ce qui était dit précédemment, à savoir il faudrait que ce soit libre de droit. Et ça, il y a une contradiction qui avait l'air assez.
On peut vendre du libre de droit. Mais...
Oui, mais ça m'avait l'air un peu délicat. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais de toute façon, je pense que on en reparlera en 2012.
Moi, ce que j'aimerais pour France Télévisions, c'est notre président préféré a demandé à ce que
Obama,
ouais,
Kadhafi,
c'est un peu la même chose. Celui que Kadhafi a financé. Donc il a demandé à France Télévisions de faire beaucoup plus de programmes intellectuels et compagnie sur l'histoire, les grands hommes français, etc. Et l'autre jour, il y a
par
eu.
Contre,
Il a envie d'apprendre en fait.
Il y a eu une émission sur Pasteur. On l'a regardé en bouffant, en attendant de regarder nos VHS des États-Unis. Mais oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais. T'avais l'impression que c'était pour des gamins.
C'était
lourd. C'était un truc qui avait été vachement annoncé et qui était en première partie soirée, quoi. Enfin,
non, moi, ce que je veux, c'est du reportage d'investigation, des gens qui sont vraiment indépendants, qui ont vraiment des moyens, genre Frontline, des vrais trucs de société. Je parle.
Tu avais dit que c'était pas possible. Hein.
Pas vraiment de trucs. En France, en ce moment, ça ne l'est pas. Mais il y en a à l'étranger, ça se fait très bien. Pourquoi pas. Mais maintenant, j'ai vu qu'il y avait des sites de reportage. On en parlera d'ailleurs peut-être la prochaine fois parce qu'on utilisera ça pour notre sujet sur les jeux vidéo, l'art et compagnie. Il y a des sites maintenant de gens qui font du docu amateur sur pas mal de trucs et ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Valou. Passons à la news suivante.
Xil est en train de danser de manière suave.
Sensuelle.
Sensuelle. De côté.
Que pour la tête.
Ouais. Une petite news pour se détendre. Il y a le site, c'était Rue 89, je crois, qui avait commencé à observer un peu ce qu'on trouvait quand on tapait les noms des plus grands milliardaires, un peu en lien avec la rubrique, enfin le débat qu'on a fait la dernière fois. Les plus grands, enfin deux des débats qu'on a fait, parce que ça va parler femmes et argent. C'est toujours un peu lié. Donc, quand on tapait le nom des milliardaires dans Google, ce qui est quand même génial maintenant avec Google, c'est que c'est un système qui d'une certaine manière, crée un nuage de tags autour de ta personne parce que tu tapes ton nom et tu vas avoir tous les trucs qui sont associés dedans comme terme. Et qu'est-ce qu'on trouve majoritairement, même à chaque fois, quand on tape le nom d'un milliardaire dans Google? Votre avis? Un indice?
Alors, t'as dit que ça parlait de femmes?
Oui.
Et d'argent?
Un milliardaire, ça va.
T'as dit que c'était lié?
Ah, les branleurs!
Les putes!
Bah, généralement, il y a le nom. Par exemple, tu tapes le mec de Facebook, là.
Et Zuckerberg.
Et ben, tu tapes Mark Zuckerberg. Et ben, il y a toujours marqué girlfriend.
Oh, c'est affreux. J'ai vu récemment, d'ailleurs, en parlant de news, qu'il avait un blog pour son chien. Qu'en ce moment, il voulait se donner une bonne image. Donc, il bloguait à mort. Il mettait du contenu social, quoi. Et que ça avait l'air d'être un drame.
Mon Dieu.
Il parle avec son chien sur son blog.
il poke son chien.
Tu veux dire que c'est pas son chien qui poste des news sur son blog?
Écoute, je crois que ce n'est pas vraiment lui.
Je suis sûr qu'il
ça fait un moment que ça buzz, en fait, surtout sachant qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui se font virer de Facebook chaque jour.
Non, c'est 20 000... Non, ils font de la modération de 20 000 personnes par jour qui sont des mineurs, qui n'ont pas le droit d'être présents sur Facebook.
Et le chien, il est mineur ou pas?
Ah, mais il n'y a pas de question de mineur.
Et il ne modère pas que ça, si tu as le malheur de mettre l'origine du monde.
Ah, mais on est tout à fait d'accord. Mais la news que j'avais vue, enfin, qu'on avait tous vu à ce truc, c'est que les gens se demandaient comment est-ce qu'ils arrivaient à faire de 20 000 modérations par jour sur des personnes mineures. Bref, ce n'est pas le débat. Donc, quand on tape Mark Zuckerberg dans Google, on trouve Mark Zuckerberg.
Quand on tape les femmes.
Girlfriend. Et c'est systématique pour tous les milliardaires. C'est-à-dire qu'apparemment. Le premier truc que les gens
cherchent... Ah, tu parles de l'autocomplétion Google, en fait.
Oui.
Ah. J'avais pas du tout compris, en fait.
Non, moi non plus.
Oh, en fait, t'es trop nul, Piouf.
Je t'emmerde, dis donc.
Personne n'avait compris,
je vais te couper ton micro, espèce de crevard. J'ai le pouvoir de la table de mixage.
Non, pas mon micro.
Et donc, on trouve Girlfriend systématique. C'est systématique pour tout le monde. Même pour les vieux, hein. Schmitt.
Mais plus ils sont vieux, plus il y a un S.
Ah non, alors plus ils sont vieux, plus on trouve d'autres choses. À savoir mistress, maîtresse. Là, par contre, tu vois toutes les casseroles. Donc, tu tapes le nom du mec, tu as toutes les casseroles. Donc, c'est quand même ce qui pose aussi une question en lien avec notre débat précédent, mais... à savoir la vie privée. C'est que maintenant, avec le système d'autocomplétion de Google, tu tapes le nom d'une personne et tu as accès à une information qui est extrêmement importante en ayant scanné tous les sites web du monde, à savoir quels mots sont associés à une sorte de nuage de tag à ta personne.
Enfin, si je dis pas de bêtises, l'autocomplétion de Google, c'est basé sur les recherches Google. Donc sur le centre d'intérêt des gens qui vont faire des recherches sur...
Oui, mais généralement, c'est assez lié... Enfin, crée-la.
C'est terrible parce que c'est du droit à l'oubli à l'inverse. Tu ne sais pas un truc sur Justin Bieber, par exemple, et tu commences à taper Justin Bieber parce que tu vas voir son dernier clip Baby Baby Baby.
Et pas le dernier.
T'apprends qu'il a couché avec un poney.
Baby Baby Baby, c'est lui, parce que moi j'avais vu un clip sur la rue Montorgueil Baby Baby Baby, c'était vachement.
Non
sympa.
Mais ça s'appelait pas comme c'est Baby O son. Sa chanson.
D'accord.
Mine de rien, tu.
Je suis très calé en Justin Bieber.
Justin Bieber.
Ça balance les casseroles des gens alors que
quand tu tapes le nom d'un politique français, tu as le Dominique Strauss-Kahn, juif. T'as systématiquement le mot juif et après chacun des noms des politiques français parce que les gens apparemment vérifient s'il est juif ou pas.
Il y a encore beaucoup d'antisémites.
Et ça, c'est systématique. Non, c'est pour tous les politiques français.
Ouais. J'avais du mal à y croire, mais c'est assez incroyable.
On veut juste savoir s'ils sont juifs ou pas, c'est pas antisémite, merde.
Et bah, donc,
de toute façon,
c'est juste pour savoir s'il faut voter pour eux ou pas, quoi.
C'est
normal, on veut pas les tuer.
C'est le point qui fait une fois par trimestre un débat sur qui est franc-maçon dans le gouvernement. Non, c'est peut-être l'Express.
Ah, bah, attends,
c'est l'ensemble des hebdomadaires, donc Le Point, l'Express, le Nouvel Obs.
Bah, c'est simple, hein, c'est Immobilier Île-de-France, Grande Loge. Immobilier Île-de-France, Grande Loge. Non, il y a un podcast qui s'est créé sur la maçonnerie. Je ne l'ai pas encore écouté.
Exact.
On pourra peut-être, faire une, Exactement, on pourra peut-être faire une critique de ça dans pas très longtemps.
C'est un truc qui est lié à Déco ou rien à voir?
Déco avec Valérie Damido.
Bah ouais, pour la maçonnerie.
Oh là 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 là, là. Tu parles de son ravalement qu'elle n'a jamais fait.
Non, en fait, c'est lié à Tous Ensemble. Merde. C'est la version française de Extreme Makeover Home Edition, Les Maçons du Cœur.
Ah, mais c'est sur TF1.
Sauf que ça n'a pas de budget, c'est beaucoup plus drôle.
Ah, par contre, là, on va pas le budget de vous refaire, là. C'est pas possible. Donc, en gros, apparemment, bah, pour moi, c'est juste des nanas qui cherchent à savoir si les mecs ont... Alors, soit c'est des mecs qui se disent... Ah, oh, bah dis donc, le milliardaire, qu'est-ce qu'il doit avoir comme une super meuf? J'aimerais bien savoir. Ou soit c'est des nanas, bon, pas vénales du tout, hein, qui veulent savoir si c'est moyen de le draguer ou pas, quoi.
Je pense que c'est bêtement l'intérêt people. Je pense que les nanas qui sont susceptibles de draguer Bill Gates ne vont pas chercher Bill Gates' girlfriend sur. En tout cas, ne vont pas chercher suffisamment en masse.
Elles savent pas utiliser Google, surtout.
Tu sais qu'il y avait un moment donné dans l'autocomplétion de Google, US. Quand tu tapais I like, tu le sais ça ?
Vas-y.
Non ? C'était un truc, je ne me souviens plus exactement de la formulation exacte. C'est, ce qui était complété, c'était j'aime scotcher mes pouces.
Je ne l'avais pas vu. Si.
Pour faire comme si j'étais un dinosaure.
Attends. On va faire une petite pause. Il faut absolument que je vous retrouve dans les stats de notre site comment quelqu'un a réussi à tomber sur Bazingcast.
Ah, c'est toujours génial. Moi, sur le blog...
Attends, c'est je cherche de la pub TV avec une fille avec une robe en tulle.
C'était une phrase de 10 000 km.
Fille, pub TV, jupe en tulle, et il devait y avoir un autre truc après.
Et il est tombé sur
Bazingcast, et j'ai refait la recherche derrière,
et en effet, tu tombes sur Bazingcast
en quatrième position. Il y en a certaines qui sont bizarres, et tu refais la recherche et tu trouves pas Bazingcast, donc tu te dis, je sais pas, le mec a été recherché à la 10 millionième place.
Et moi, sur mon blog, je regardais un peu les gens comme ça, et il y en a un qui m'avait un peu fait flipper. C'était un truc du genre j'ai trouvé le passage, mais maintenant la difficulté c'est d'en revenir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Alors,
je
l'avais tapé, c'est un truc de jeu vidéo, ça.
Je l'avais tapé, ça menait bien sur le blog communautaire où je suis. En fait, c'était un article sur Sliders, et apparemment, c'est la première phrase. Mais mine de rien, quand tu tapes ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Généralement, c'est des mecs qui cherchaient absolument pas notre site.
Ouais, moi, le plus gros hit que j'ai vu en nombre, c'est quand même Bazingcast Micha dans Google, qui mène au site. Hein, je veux dire, ça, je dis rien.
Et est-ce que avant... quand on cherche Micha, on tombe sur Bazingcast?
Et c'était avant qu'elle promette de se montrer topless au millième commentaire.
Ah là 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 là.
Ah ben maintenant, on peut plus le reprendre. Hein.
Et le résultat, il est parti, quoi.
Elle reviendra.
Vous la persécutez.
Elle reviendra.
Et parfait son bronzage.
Faites revenir, Micha.
Ah là là, et ben justement, pour la faire revenir, il est temps que j'arrête de parler.
C'est donc ça qu'elle te reproche.
Et donc, merde, j'espère que mes petites news vous ont plu. Et on passe à la rubrique de Krillin.
Ouais.
Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30...
J'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres.
Nous proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité...
Lutte !
...permette de régler...
Je sais où tu te caches !
...des situations sécuritaires de ce type.
Viens ici que je te bute, enculé !
Parce qu'on s'aperçoit que l'ère de la calomnie... C'est aujourd'hui arrêté, tout simplement parce que c'est la vérité.
Et toi, je te flagelle la gueule à coups de cramage.
Ah, j'adore ce jingle.
Ah, en parlant de Micha, elle nous appelle. Vas-y.
Allô Micha, tu es à l'antenne. Tu es en direct sur Basincast dans 3 semaines.
Ça me rappelle. Ça
me rappelle. Tu es en direct différé de.
Ça me rappelle les radios libres. Bonjour, tu es à l'antenne. Parle-nous de tes problèmes d'érection et de boutons.
Pose ta question.
Vous voulez pas qu'on fasse un de ces jours des canulars téléphoniques?
Ah, ça peut être très très bon ça.
Il va falloir se démerder pour brancher le merdier sur le son. Mais...
Ah non, mais ça c'est très très faisable. Oh, je retiens l'idée.
Avec 10 full piouf. Et ah, donc, il
faudrait faire des scénars bien sympas. Ok, et ben donc sur ce petite introduction humoristique, c'est notre ami Krilin qui va nous parler d'exploration urbaine.
Exactement, l'exploration urbaine. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est?
Wow, c'est aller dans des catacombes.
Moi, je triche, je sais, donc je vais pas m'exprimer, mais peut-être que Liliane...
C'est quand tu fais du tourisme dans la ville.
C'est une idée.
C'est quand tu vas à des endroits où tu n'étais pas censé.
Ouais, tout ça, c'est des bonnes réponses. En fait, l'exploration urbaine, c'est un terme un petit peu bâtard qui désigne plusieurs pratiques.
Bâtard.
Contrairement à l'exploration anale.
Oh là 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 là.
Et donc en fait, qu'est-ce que c'est l'exploration urbaine? C'est en gros aller visiter des lieux que tu n'es pas censé voir souvent.
Comme l'exploration.
Pas bien.
Mais laissez-le parler.
Ouh. Ouh, bienvenue dans bas... Non, pardon. Vas-y.
J'ai regardé où j'en suis. Donc...
Non mais c'est... Ouais, je pense que...
Pas, je la reprends du début.
Oui, je pense que c'est mieux.
Ah non, louper toutes nos blagues et tout.
Donc, l'exploration urbaine, c'est un terme bâtard qui désigne un ensemble de pratiques où tu vas visiter des choses où, en effet, en théorie, tu n'es pas censé aller. Toutes ces choses-là, ce sont des endroits que l'homme a modifiés. Non mais c'est pas possible.
Ce que j'ai dans, c'est toute ta rubrique maintenant va être réinterprétée sur la première blague qu'on a faite.
Et comment tu peux y voir une mauvaise interprétation sans déconner?
Donc attends. Ok, on fait un effort, vas-y. Continue.
Donc en général des lieux abandonnés. Des usines, ce genre de choses. Voilà. Non, sincèrement, c'est pas possible.
Non, mais c'est bon, tout va bien, tout va bien. Trop là, va prendre l'air. Il va faire l'exploration urbaine aux toilettes.
Il y a trois grandes familles en fait dans l'exploration urbaine. La première, c'est tout ce qui est l'exploration souterraine, en particulier ce qu'on appelle la cataphilie. Donc les catacombes de Paris, entre guillemets, puisque le terme est faux, ou toutes les carrières. L'exploration de friches, donc là, c'est tous les bâtiments qui ont été abandonnés, que ce soit des bâtiments industriels, type des usines, des anciennes habitations, ce genre de choses. Et la troisième pratique, c'est ce qu'on appelle la toiturophilie. Alors la toiturophilie, c'est quelque chose qui est très pratiqué à Paris.
Tu vas baiser des cheminées hein?
La toiturophilie, ça consiste à explorer les toits, en fait, à monter à des échafaudages pour avoir une vue souvent de nuit des toits de Paris et de faire des super photos puisque tu as des vues magnifiques en général.
C'est les Yamakasi, mais qui prennent des photos.
Ouais, alors c'est des gens qui montent pépèrement un échafaudage et pépèrement posent l'appareil photo et pépèrement attendent que la pose de 30 secondes à 2 minutes soit prise.
Ouais, mais je préfère les imaginer ninja sautant.
Ouais, ninja illettré dans un film de Luc Besson, quoi.
Il y a un mec qui a fait de la toiturophilie il n'y a pas très longtemps... sur le toit de l'université de Californie du Sud, je sais plus laquelle, c'était en Californie. Il s'est fait suspendre.
Bah
parce
ouais.
Il n'était pas tout seul.
Alors j'ai des amis qui ont fait de la toiturophilie sur la préfecture de Paris, la préfecture du 1er arrondissement. Et quand ils sont pas fait choper en montant, ils sont restés une bonne demi-heure là-haut, ils étaient bourrés en plus. Quand ils sont descendus, ils ont rien trouvé de mieux que de sauter à l'endroit où il y avait un flic, donc ils sont un peu fait... et sermonné. Et le mec, à un moment, leur a fait « Mais vous savez que c'est le deuxième bâtiment le plus surveillé de France après l'Elysée ?» Donc bon, ça leur a un peu foutu les boules. Mais bon, les flics ont été...
C'est pas rassurant.
Ouais, voilà, c'est ça. Et les flics ont été relativement compréhensifs. Mais ne le faites pas, c'est pas bien.
C'est mal.
Donc, voilà.
Bazincast réfute toute culpabilité, responsabilité.
Toute incitation.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir, plus précisément, qu'est-ce qu'on fait en exploration urbaine? Donc, la toiturophilie, en général, il n'y a pas énormément de possibilités. C'est les toits des immeubles classiques. Certains grands bâtiments, il n'y a pas très longtemps, c'était l'Opéra Garnier qui était très visité par les toiturophiles parce que...
Oui, il y a les ruches en plus, c'est dangereux, il y a les ruches.
Ah. Et parce qu'il y avait pas mal d'échafaudages autour, ça a été enlevé, donc c'est plus la peine d'essayer. Et puis ça devenait vraiment chaud sur la fin. Les lieux qui sont encore faisables aujourd'hui, je vais peut-être pas trop en parler.
C'est le genre de truc où il faut être plutôt le premier pour parce qu'après les flics sont un peu prévenus et ils font plus attention quoi. Mais ouais,
alors, c'est compliqué en fait. Si je veux pas en parler particulièrement sur la toiturophilie, c'est que c'est quand même une pratique qui est très dangereuse.
Tout à fait.
Et ce sont des lieux qui sont encore utilisés, contrairement à l'exploration de friches, mais je reviendrai sur les dangers après.
Ok.
Et donc il vaut mieux pas se lancer là-dedans. Je pense qu'il vaut mieux avoir une certaine expérience d'abord avant de commencer là-dedans quoi. Je connais quelqu'un qui a pour explorer le toit d'un grand gratte-ciel parisien a escaladé entièrement les 100 mètres d'échafaudage qui était sur la façade. Sincèrement, ça faut pas le faire, même avec beaucoup de... Donc il a pas monté les échafaudages, hein, il les a vraiment escaladés à partir de l'armature. Oui, Exil.
Non, je vais mimer le truc.
Voilà, c'est ça. Comme Imisiku dans Un Indien dans la ville.
Oh putain, la référence.
Ouais, ça vous donne
le nom. Oh putain, ce nom qui sort de nulle part, quoi. Ça fait tellement d'années. Ouais. Imisiku.
Alors, par contre, moi pour tout ce qui est cataphilie, bon, en général, c'est soit ce qu'on appelle les catacombes de Paris, soit les carrières. Mais ce qui m'intéresse, moi, vraiment le plus, c'est les friches, parce que là, on voit vraiment des choses différentes. Le plus gros, c'est souvent voir les usines abandonnées, des usines, des gros complexes industriels. À une époque, il y avait un complexe EDF qui était abandonné avec toutes les machines en fait qui étaient là. Et surtout à l'époque, c'était pas des pauvres voyants en plastique, c'était du verre teinté et gravé derrière lequel il y avait des ampoules et c'était vraiment superbe. Moi, quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment apprécié, c'est une coopérative agricole dans le sud de l'Île-de-France qui était abandonnée parce qu'ils l'ont délocalisée autre part. Et là aussi, c'était vraiment très sympa. Il y avait des énormes machines, on a pu rentrer dans les silos, etc. C'était vraiment, vraiment très intéressant.
Ce genre de choses, ils ne se font pas vite désosser par des charognards. Hein.
Ah, alors des ça, c'est très compliqué. C'est le point le plus compliqué de l'exploration urbaine, c'est trouver un lieu où il y a encore des choses à faire. Déjà, c'est des lieux qui sont cherchés par tout le monde. Ils sont cherchés par les paintballers, les airsofters, les taggers qui veulent les utiliser pour faire leurs trucs. Ils sont cherchés par tous les trafiquants de métaux et compagnie qui veulent les désosser. Ils sont cherchés par les casseurs, les mecs qui sont juste là pour trouver un lieu pour se bourrer la gueule et compagnie.
Même les brocanteurs, il y a même des professionnels, je pense. Hein,
ouais, il y a vraiment tout. Et le monde de l'exploration urbaine est aussi divisé entre ceux qui sont pour « je ne casse rien, je ne laisse pas de traces dans mon passage » et ceux qui sont là pour s'amuser et tout détruire. Donc c'est vrai que plus un lieu est connu, plus il va être vide et moins il va être intéressant. Un autre problème, c'est aussi le fait que de temps en temps, il y a des tentatives de réhabilitation des lieux. Il y avait notamment le foyer de l'avenir social dans le sud de l'Île-de-France également, qui était un foyer de jeunes qui avait été abandonné du jour au lendemain. Et à l'époque, il y a encore 3 ans, il y avait plein d'artefacts humains, donc par exemple des vieilles boîtes de cornflakes en métal, des plein de choses, c'était très sympa à visiter. Depuis, il y a eu une énième tentative de réhabilitation. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vider les lieux complètement. Et aujourd'hui, c'est juste des pièces vides et c'est pas très intéressant.
Je suppose que c'est tous ces petits objets qui donnent le charme au lieu aussi.
Voilà, exactement. Que ce soit dans les usines ou dans les manoirs ou autres, c'est vraiment les traces de vie qui sont intéressantes.
Ouais, ça me faisait penser à un lien que Lily avait partagé sur Google Reader, où tu voyais un asile qui avait justement été recouvert de tags, enfin, pas forcément recouvert, mais pas mal recouvert de peinture, etc., qui était exploré, je pense, enfin, complètement abandonné et exploré par des gens, et ça donnait un monde absolument surréaliste que tu voyais en photo. On essaiera de vous retrouver.
Mais il y a deux aspects, je pense que aussi le visiter quand il était désaffecté, mais que personne n'y avait touché, ça devait être assez ouf aussi, quoi.
Aussi, ouais, mais là, t'avais un mélange entre les trucs qui avaient été rajoutés et qui étaient surréaliste et l'endroit qui était.
Les deux sont intéressants, je pense.
Assez glauque.
Mais je pense que moi, j'arriverais pas à m'empêcher. Par exemple, tu me parles de. Je vais dans un endroit, je vois des vieilles boîtes de cornflakes en métal et tout. J'aurais du mal à pas looter, en fait.
C'est ça le gros problème. C'est aussi. Le lootage, c'est un problème. Est-ce que tu vas laisser la chose pour laisser le prochain qui va voir et qui va se dire waouh, c'est joli.
Ouais, mais quand tu sais que la moitié des gens, si c'est pas toi qui le loot, ça va être le suivant.
Voilà, oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que les gens n'aiment pas donner les lieux qu'ils connaissent parce qu'ils aiment pas que ce soit.
C'est un milieu assez secret, quoi.
Est-ce que tu vas t'enfuir avec les fûts de bidons radioactifs?
Non, faut pas aller visiter l'ancien manoir d'écurie à Arcueil-Cachan, ça c'est pas une bonne idée.
C'est vrai qu'ils envoient les noobs.
Je croyais qu'on l'avait délocalisé au Japon.
Allez, à Fukushima. Exploration urbaine, là, je crois qu'il est assez bon, tu peux y aller.
Il y a d'autres choses qui sont sympas à visiter, notamment les fortifications. Alors, il y en a pas énormément en Île-de-France, mais notamment sur tout ce qui est dans l'est de la France avec Verdun, c'est des choses qui sont très sympas à voir. Alors, fortification, ça peut aller de Vauban à Verdun. Hein. Il y a vraiment de tout. Pas très loin de la France, la Belgique est une zone sinistrée superbe pour les explorateurs urbains. Il y a énormément d'usines, de brasseries et compagnies qui ont été abandonnées.
C'est grâce à la Chine que que tu peux avoir tout ça.
C'est grâce à la fin de l'ère industrielle, hein. Ça date de bien avant. Mmh. Voilà.
Ouais, mon pays. La Belgique.
Alors sinon, dans.
Tu n'étais pas suisse il y a deux secondes?
Non, il est Luxembourg.
C'était pas la Chine.
C'était la Belgique, mais.
Et sinon,
Et tout ça, c'est mes pays. J'ai plein de pays.
Ta gueule!
Non, mais c'est bon.
Ah, mais j'ai pas envie de dire ta gueule.
Des choses un peu plus étonnantes que je n'ai pas faites, bien sûr.
Par exemple, de toute façon, toi, tu n'as rien fait. Tu es juste un observateur de gens qui t'ont dit, qui t'ont raconté.
Tout ça, j'ai lu dans Wikipédia.
D'accord.
Je ne suis pas descendu dans un ossuaire à l'intérieur d'un cimetière.
Un ossuaire.
Je n'ai pas ramené de crâne entier ni de fémur.
Pour les gens qui s'amuseraient à descendre dans les ossuaires ou éventuellement dans les carrières parisiennes du 14e arrondissement, où il y a encore des ossements. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous y allez, c'est interdit, ok, vous avez une amende. Si vous ramenez des ossements ou si vous prenez des photos de vous en train de vous amuser avec les ossements, c'est de la violation de sépulture. Et là, c'est plus vraiment la même amende. Je me rappelle plus le chiffre exact, mais c'est 5 chiffres. Et c'est passible de plusieurs années de prison.
Et en plus, vous êtes un con.
Mais bon, ça, c'est
il n'y avait pas une sorte de toxicité je me souviens parce que bon, il y a eu l'ossuaire à Paris qui a été vandalisé cette année.
Tu parles des vraies catacombes de Paris.
Ouais, l'ossuaire de. Et il me semblait qu'il n'y avait pas une sorte de toxicité une fois qu'ils avaient tout remué ou que ça avait abîmé ou que c'était même dangereux pour l'homme. Une légende urbaine peut-être pour faire fuir les gens. Mais...
Pas que je sache, les dangers du souterrain en général, c'est soit le manque d'oxygène. Et comme les catas parisiennes, ce qu'on appelle les catas parisiennes, sont de plus en plus fermées par les autorités, c'est vrai que le nord du réseau a un taux d'oxygène qui est de plus en plus bas au fil des années. Il est encore largement au-dessus du taux critique, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vrai qu'il baisse. Mais dans des carrières, ça peut être un problème. Et un autre problème, ça peut être aussi quand on fait des mines dans le nord, l'eau éventuellement, mais c'est surtout tous les gaz qui peuvent s'échapper, voilà, grisou notamment. Les compères qui sont très très forts dans l'explo urbaine, eux ils ont du matériel de malade juste pour pouvoir aller dans
les Canaries.
Des Canaries. Ouais. Donc voilà. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions ou...
Moi je pense qu'il y a des lieux. J'avais regardé quelques sites en fait. Moi les lieux que je trouvais assez ouf, c'était il y avait des vidéos de malades sur genre des. Les mieux que j'avais vu, je crois que c'était un commissariat désaffecté. Qui était juste mais totalement hallucinant quoi, avec les vieux fichiers, avec les vieux dossiers papier, des meurtres, des scènes de crime, des machins.
Alors tout ça c'est la région de Chicago je crois, enfin je sais plus exactement,
plus c'était, mais c'était
c'est une
magnifique.
Région ou Boston, je sais plus.
Enfin, ça me fait penser à un truc, je sais plus si c'était à New York, je sais plus exactement si c'était en Amérique, peut-être que tu connais Underbelly Project.
Non, ça me dit rien.
C'est en gros, c'est l'équivalent des. C'est pas. Bon, je vais peut-être y dire une connerie parce que j'ai plus très bien l'info en tête. Mais c'est plus ou moins un équivalent des carrières parisiennes. Et ils mettent en place, en gros, des projets artistiques, tout ça. C'est assez fermé pour pouvoir y entrer, mais ils posent des photos.
Et c'est où pas...
Bah, je sais plus. J'ai l'info quelque part, je te la retrouverai, mais.
Parce que je suis pas
dans
sûr.
Dans les notes de l'émission.
Je suis pas sûr qu'aux US, il y ait beaucoup de carrières.
Non, mais ils ont des systèmes d'égouts.
Ouais,
il y avait un mec qui avait fait un challenge en traversant justement toute la ville en jogging.
D'ailleurs, c'est très habité les égouts déjà des États-Unis et particulièrement de l'Australie. Ça, ils ont des réseaux d'égouts qui sont habités par des gens
d'accord.
qui n'ont pas d'autres endroits.
Alors que chez nous, on a surtout des rats dans les égouts.
Donc ce que je disais, c'est que je ne sais plus quelle est cette région, je crois que c'est autour de Chicago, qui est complètement dévastée économiquement. Et cette ville-là, où le commissariat a été abandonné du jour au lendemain, c'est la ville qui a fait banqueroute. Donc à partir de ce moment-là, ils ont arrêté de payer les fonctionnaires qui sont tous partis.
Et genre, ce qui est assez génial, c'est que la façon abrupte que ça s'est terminé, c'est fait que toutes ces administrations ont laissé tout ça tel quel.
Ah, il y a les munitions.
Les mecs se sont juste barrés, quoi.
C'est tout.
Ouais, les flingues, les munitions, tout est rangé. T'as la limite la tasse avec encore du café dedans qui a séché. Enfin, c'est assez marrant. Et moi, l'autre aspect que j'aime bien aussi, c'est plus les endroits où la nature a repris ses droits. On a souvent parlé de Tchernobyl, qui donne un peu des images comme on en retrouve dans le film avec Will Smith.
Je suis une légende.
Ce genre d'images où j'ai vu des artworks qui sont magnifiques aussi. C'est ce genre d'images post-apo que j'aime bien. Et là, pareil, la nature qui reprend ses droits, c'est assez sympa. Je ferai un parallèle avec ce qu'on peut voir, notamment au Cambodge, dans une vision un peu plus extrême, où là, c'est des vieux temples où ils ont laissé certains arbres et certaines végétations sans tout nettoyer. Et ça donne des visions assez intéressantes et des bâtiments modernes avec, pareil, des arbres qui poussent, la végétation qui reprend ses droits, les animaux. Je trouve ça assez
Bah, t'as poétique. La petite ceinture de Paris, non ?
Ah oui, t'as la petite ceinture, oui.
Ben justement, c'est ça dont je voulais parler.
Ah, oui.
Juste un petit mot avant pour... on a cherché vite fait sur Internet au niveau d'Underbelly Project.
Underbelly Project, c'est à New York. Et en fait, c'est une galerie d'art dans une ancienne station de métro.
D'accord. Ok. Donc, justement, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est la grande question. Il n'y a rien qui se dégage, il n'y a pas de tendance claire qui se dégage quand tu parles avec différents explorateurs urbains. Il y a plusieurs sous-tendances qui se recoupent, mais pas une grosse tendance. Déjà parce que entre les cataphiles, les toiturophiles et ce qu'on va appeler les fricheux, c'est vraiment pas les mêmes gens. Moi, je suis dans un, entre guillemets, un groupe, parce qu'on s'est formé petit à petit on va dire 10-15 de personnes, mais au final, on fait pas les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, il y en a que j'ai dû voir deux fois parce que eux, ils sont très toiturophilie, alors que moi, pas du tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Moi, la raison qui m'a, je pense, sans m'en rendre compte, le plus poussé à faire ça, c'est mon amour du post-apo. Et le fait que c'était clairement une vision post-apocalyptique qu'on avait en visitant ces lieux abandonnés, où les gens avaient tout laissé sur place, où on pouvait s'imaginer comment ils avaient vécu, et où en effet la nature reprenait ses droits. Il y avait un chouette petit manoir à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui avait été complètement recouvert de végétation, c'était superbe, il y avait du lierre partout, c'était vraiment sympa. Et ça, c'est vraiment un aspect, se balader là-dedans.
Je pense que je partage tout à fait ton point de vue là-dedans. Il y a aussi un peu d'aspect transgression d'interdit, exploration dans le sens un peu pas tactique mais un peu infiltration, ce genre de truc, ou pas trop?
Évidemment.
C'est juste
si. Alors ça va dépendre des endroits où tu vas aller. Il y en a certains qui sont gardiennés et donc il va falloir faire attention, il va falloir faire gaffe s'il y a des sirènes de flics, peut-être que tu t'es fait repérer, est-ce que le vigile il t'a vu, le chien qui aboie depuis tout à l'heure, est-ce que il commence à éveiller la suspicion, etc. Ça va dépendre. Il y a l'aspect adrénaline, clairement, beaucoup plus dans les endroits où il y a des gens, enfin où c'est gardienné, notamment les gens qui font de la toiturophilie. Et puis il y a aussi l'aspect à la fois j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière. Enfin, je sais pas si quand vous vous baladez dans le métro, vous vous rendez compte de tous les couloirs qui sont fermés, qui sont cachés.
Voire même les stations entières qui sont fermées.
Les stations entières, il y en a qui ont été fermées, il y en a qui n'ont jamais été ouvertes, etc. Et ça, c'est des trucs qui font envie. On a envie de savoir ce qu'il y a derrière.
T'as une station notamment qui n'a jamais servi, qui servait que à faire des démos, à installer les affiches. Et c'était une sorte de showroom pour les pubs et pour les publicités, en fait.
Il y a, en parlant de pub, il y a une des stations qui a été fermée qui est très connue aujourd'hui parce que tu as des vieilles pubs en céramique qui datent de, je sais pas, il y a 60 ans, 70
ans. Ce qui est extrêmement dommage, c'était il y a 2 ans où ils ont commencé à gratter dans toutes les stations les panneaux publicitaires et où pendant plusieurs semaines, selon là où tu te baladais, tu revoyais dans tous les métros les anciennes pubs. C'est dommage qu'ils aient pas... Enfin, il y avait vraiment un truc à faire. Moi, parfois, quand je descendais dans le métro, je me retrouvais dans les années 60, 70, dans les années 80.
Les anciennes pubs des années 70
Ah oui, ils ont superposé, quoi.
Ils n'en ont pas superposé autant.
Ah bah, si.
Ce qui gratte régulièrement, quand même, c'est souvent.
Au moins, il me semble que gratter.
Enfin, peut-être maintenant, depuis les années, je sais pas, 90.
Parce que 20 ans d'affiche, ça doit faire une sacrée épaisseur.
Mais ce qui est en dessous... Non, mais je pense peut-être qu'ils ont gratté, justement. Genre, ce qu'il y avait en dessous, ils ne l'ont pas gratté. Mais maintenant, depuis 20 ans, peut-être qu'ils grattaient. Mais pas jamais jusqu'au bout, quoi. Et c'est quand ils ont fait la réflexion totale, notamment sur la ligne 1. Sur la ligne 1, il y avait vraiment des trucs magnifiques, quoi.
C'est pas des trucs genre ils ont enlevé des, du carrelage ou des trucs et ils ont retrouvé de l'affichage.
Oui, ça se trouve, il y avait peut-être une couche de carrelage dessus. Ouais. Hein. Il y avait peut-être une couche de carrelage dessus.
Il me semble avoir vu des.
Et il y avait aussi d'ailleurs des anciennes cartes de métro aussi.
J'ai vu un truc du genre.
En dessous du carrelage, tu tombais nez à nez avec des anciennes cartes. Enfin, c'était vraiment.
C'est tout ça qu'on découvre justement dans l'explo urbaine, ces vieilles choses. Alors, je ne l'ai pas faite et depuis, ça a été très abîmé. Mais notamment, il y a la ligne de métro, entre guillemets, qui était faite à Noisy-le-Grand, qui n'a jamais été ouverte. Et j'ai vu les photos, c'était superbe. C'est-à-dire que c'était ambiance très années 80. Avec les vieilles machines à pièces pour récupérer ses billets, etc. Et tout ça, c'est des trucs qu'on revoit, qu'on retrouve. Quand je n'ai pas visité des CEA abandonnés, tu retrouves aussi...
Ah, les CEA.
Ouais, tu retrouves aussi des vieilles affiches, des vieux modes de vie,
la recherche française, monsieur.
Voilà.
Ferons d'ailleurs un Bazinga spécial avec un invité chercheur.
Ouais.
Tout aussi abandonné que.
Ouais, c'est clair. Et il y a un truc qui est très sympa aussi, c'est quand tu visites les manoirs du début du XXe siècle. Les maisons de maître, etc. Où là, c'est superbe. Mon bijou, mon truc préféré, je dirais pas où c'est évidemment, c'est une grande maison avec un. Enfin, patio, c'est vraiment superbe. Que des boiseries. C'est du faux parce qu'en réalité, ça a été fait dans le style néo-gothique au début du XXe siècle, mais c'est vraiment superbe. Les salles de bain sont gigantesques et à faire des photos là-dedans. Ah oui, j'oubliais une des raisons principales de l'exploration urbaine, c'est les gens qui aiment faire des photos. Ça, évidemment, ouais. Avec ça.
Notamment dans les katas, avec les lampes, les couleurs, la lumière, les lampes acétylène.
On croit pas qu'une LED, on a l'impression qu'une LED ça donne de la lumière blanche, mais pas du tout, ça donne de la lumière bleue, la lampe acétylène de la jaune. Tu peux avoir vraiment beaucoup de jeux de couleurs là-dessus.
Et comme souvent tu es dans le noir, tu utiliseras énormément la lumière et ça peut donner des photos très très sympas.
Voilà. Alors maintenant, les deux derniers aspects importants qu'il faut mentionner, est-ce que c'est légal ? Non, évidemment. parce que quelque chose qui est abandonné, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de propriétaire. Et mine de rien, si vous avez un accident là-dedans, c'est le propriétaire qui est responsable. Donc c'est la raison pour laquelle le propriétaire va faire en sorte que vous n'ayez pas le droit d'y aller. Et s'il est responsable, il va essayer de faire en sorte de vous faire payer, porter le chapeau.
Il va se retourner contre vous, quoi.
Voilà.
Intrusion
avec effraction, etc. Donc ce n'est pas légal. Parfois il y a des choses, on y va, ça a longtemps été abandonné et en fait les gens sont en train de se battre pour essayer de les réhabiliter. Je pense notamment à la très belle batterie de la Pointe à Palaiseau, qui est un petit bijou architectural de l'architecture de défense de la fin du 19e siècle, et heureusement ils sont en train de la reprendre parce qu'elle était abandonnée et c'était très triste. Donc voilà. Et puis évidemment, cataphilie, il ne faut pas oublier que c'est d'autant plus interdit, surtout les catacombes de Paris. Il y a un arrêté préfectoral qui l'interdit. La toiturophilie.
Il y a de plus en plus de monde, ce qui a amené beaucoup de dérives et beaucoup de fermetures.
On revient au niveau des années 80, mais je ferai une spéciale sur les catacombes de Paris. Et au niveau des précautions, il y a deux précautions qui sont importantes. Particulièrement une qui va pour tout, c'est comme la marche en montagne, n'y allez jamais seul et prévenez toujours quelqu'un en lui disant où vous allez et à quelle heure vous pensez rentrer. Pour que si 2-3 heures après votre retour supposé, vous n'avez pas donné de signe de vie, il puisse commencer à s'inquiéter. Parce que mine de rien, même si vous allez dans un manoir abandonné, il se peut très bien que le plafond
lâche. Tu passes à travers le sol.
Exactement. Tout ce qui est en souterrain, c'est encore pire puisque c'est des labyrinthes. Donc pour les souterrains, il vaut mieux avoir une carte. Enfin, c'est pas il vaut mieux avoir une carte, c'est n'y aller pas sans carte. Souvent, récupérer des cartes, c'est facile.
Voilà, exploration, ça veut pas dire à l'arrache, quoi.
Voilà. C'est vraiment trop bête de faire des conneries. Même si vous claquez, pensez pas à vous, pensez aux autres, parce que si vous claquez dedans, ils vont fermer les réseaux, ce serait bête pour nous.
Ce qui arrive souvent. Enfin, souvent. Est-ce que tu croises des gens hostiles parfois? Est-ce qu'il y a des squats ou des...
Alors ça, moi j'ai eu la chance de pas en croiser. Il y a des fois où j'ai pas fait le malin quand j'ai compris qu'il y avait un clodo de l'autre côté de la porte et que j'étais chez lui. Et donc j'ai bien fait du bruit pour bien montrer que je partais dans l'autre sens, parce que tu sais jamais comment ils peuvent réagir. Dans un CEA abandonné où je n'étais pas allé, mes coéquipiers, ils sont retournés plus tard et c'était en train d'être complètement démantelé par les Roumains, qui les ont un peu encerclés à 40 en leur disant « Ah, vous avez des jolis appareils photo en roumain ». Ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'ils ont un peu flippé sur le coup. Quant aux catacombes de Paris, il n'y a plus les problèmes qu'il y a eu dans les années 80 avec les bastons entre skinheads et autres. J'ai pas entendu parler d'altercation dans les catas ces dernières années, mais ça peut toujours arriver. De façon générale, moi j'essaye d'éviter les rencontres, et quand on croise quelqu'un, en général on essaye d'y aller franco, c'est-à-dire on s'est vu, on va à terrain découvert pour vraiment se voir et dire bonjour. Si le mec il commence à être fuyant, méfiance, soit il est là,
soit il cache un corps.
Voilà. Vu que vous êtes tous les deux au même niveau d'illégalité, s'il se barre, c'est peut-être que
il fait quelque chose de pire.
Méfiez-vous, quoi.
Et
puis surtout, faut pas oublier les endroits où vous allez. Souvent il y a de l'amiante. Parfois il y a des radiations. Donc bon, faut être conscient que ces risques-là.
Oui, généralement les trucs abandonnés sont rarement proprement démantelés, ou il n'y a pas eu le budget pour. S'ils sont restés abandonnés, c'est que souvent il n'y a pas eu le budget pour proprement les démanteler. Et c'est clairement, il y a clairement des risques, quoi. Donc faut se renseigner, avoir des cartes et être accompagné.
Et ne pas y aller, c'est interdit.
Et de toute façon, il ne faut pas, quoi.
Et je repensais à ce que disait Liliane. Si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, la petite ceinture de Paris, c'est une ligne de chemin de fer abandonnée qui fait quasiment tout le tour de Paris, sauf dans le 16e. Et c'est très sympa à faire. C'est pas particulièrement difficile, suivant les tronçons, d'y aller. On se croit plus dans Paris. On est soit au-dessus des voies, soit en dessous. On est dans des tranchées vertes. Particulièrement la partie sud est très très sympa à faire. On passe au milieu du parc Montsouris. C'est vraiment très sympa. Ça vaut le coup.
Ok, merci beaucoup. Et c'est des endroits qui sont assez importants, notamment dans Paris, pour que, au niveau écologique, qu'ils gardent une certaine biodiversité qu'il n'y a pas forcément partout.
Vu
que c'est des endroits en friche. Exactement. Il y a des blaireaux sur ces belles paroles. Merci beaucoup, mon cher Krill. Nous allons passer à la culture. Culture. Alors, je ne sais pas vraiment si les jeux de société sont culturels, mais ça sera peut-être un débat que l'on aura prochaine fois.
En tout cas, on aura le débat sur les jeux vidéo sont-ils de la culture ?
Sont-ils de la culture ?
De l'art.
Et de l'art. Enfin, c'est... Enfin, bref. Oui. On aura un débat un peu large là-dessus pour le prochain épisode. En tout cas, cette fois-ci, nous allons parler de jeux de société. Alors, je vous avoue que j'ai pas tout compris. Alors, étant donné que vos critères avaient l'air assez bordéliques, je vais laisser Xil expliquer.
Tout à fait. Donc, notre ami Trollin, qui va pas forcément participer particulièrement à la partie jeux de société, nous a très bien résumé la chose. Nous allons vous parler de jeux de société imaginatifs, basés sur l'imagination et non pas sur des mécanismes mathématiques ou sur du
hasard,
bluff ou sur ce genre de choses. Je vais d'abord laisser Liliane commencer, qui va nous présenter un grand classique qui est Il était une fois.
Quoi, qu'est-ce que c'était ça?
Non, parce que je n'aime pas ce jeu. Vas-y.
Tu n'aimes pas ce jeu?
Ah, c'est pas Il était une fois, c'est l'autre.
C'est...
Non, je pense que t'aimes, tu vas aimer.
Seigneur des ténèbres.
Piouf ne va aimer aucun des trois jeux qu'on va présenter. Mais c'est pas grave.
J'ai 5 minutes pour te le vendre.
Ouais, vas-y.
D'accord. Donc, Il était une fois, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes. Donc, il y a en fait deux types de cartes différents. Donc des cartes qui vont servir à raconter l'histoire, donc très imagées, avec par exemple une princesse qui est dessinée, et puis en dessous il y a marqué princesse. Bon, après il y a la version, avec les méchants,
forêt.
Voilà. Donc il y a des personnages, des lieux, des objets, tout ça, bon, tout ce qu'il faut pour raconter une histoire.
Puisque c'est un jeu où il faut raconter une histoire,
tout
ça,
fait.
Tu l'as pas précisé.
Oui, il faut raconter une histoire, et... Donc, l'autre type de cartes que vous avez, ce sont des cartes dénouement. Donc, par exemple, ils vécurent heureux, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants.
C'est marrant, mais c'est toujours à celle-là qu'on pense.
Bah oui, la princesse, forcément, il faut qu'elle se marie. Mais bon, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple?
Oh, je ne sais pas.
Il tua le dragon et le royaume fut délivré de la malédiction.
Par exemple.
Exactement.
Voilà,
il y en a des tout pourris. C'est toutes les cartes dénouement qui se passe en sous-marin. Alors là, dès que vous en avez une, vous savez que c'est plus possible.
En sous-marin ?
Ouais, genre...
Parce que moi, j'ai toujours vu des versions Heroic Fantasy où il y avait
Mais il y en a...
Et le vaisseau spatial, à ta gueule.
Non. C'est toujours... Mais c'est genre...
Sous l'eau, tu veux dire.
Voilà.
D'accord.
Oui, sous-marin, dans ce sens-là. Oui. Et le royaume des flots fut délivré, je sais pas quoi, de la malédiction, etc. Ouais. Enfin bon, il y a des trucs qui sont vraiment très imagés. Et donc, en gros, si tu commences pas la partie en forçant le truc, une aventure de petite sirène, t'es couillonné, quoi.
En fait, le principe du jeu, c'est évidemment, il faut commencer par « Il était une fois ». Et là, vous racontez une histoire en posant successivement vos cartes. Donc, par exemple, il était une fois... là, j'ai la carte la petite vieille, donc une petite vieille, dans un endroit précis, peut-être une auberge, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous racontez votre histoire. Et le but du jeu, c'est d'arriver à poser votre carte de dénouement. Évidemment, les autres peuvent vous interrompre. Si je dis, il était une fois une petite vieille qui avait dans son coffre un magnifique trésor, et là, quelqu'un a la carte trésor. Donc, cette personne pourra poser sa carte trésor, l'interrompre et reprendre le fil de l'histoire.
D'accord, donc si t'as dit un mot, par exemple, un mot particulier dont toi t'as pas la carte, mais quelqu'un a la carte correspondant à un mot, il peut t'interrompre.
Tout à fait. Voilà, donc le but c'est plus de raconter une jolie histoire en groupe plutôt que de plus que de gagner hein, de mon point de vue.
C'est parce que t'es une fille.
C'est pour ça que ça me plaira pas, c'est ça. Non,
c'est pour ça que ça te plaît pas.
Non mais je vais quand même.
Il y a beaucoup de gens qui veulent absolument gagner à ce jeu.
Oh,
C'est vrai que j'ai souvent beaucoup envie de gagner. D'ailleurs, je vais vous raconter l'anecdote.
Lydia a généralement super beaucoup envie de gagner. En fait, mais généralement, les autres joueurs, non, elle gagne tout le temps. Mais, mais surtout que généralement, elle s'adjuge le rôle de déterminer quelles choses dans ce que disent les autres sont ou pas cohérents. Donc,
non, mais écoute,
toi, tu peux pas dire ça, t'es pas cohérent. Mais par contre, elle, il y a plus personne pour lui dire que c'est pas cohérent. Donc,
écoute, l'expression ce bon vieux calamar existe.
Continue.
Vas-y, explique-nous.
Faut être un peu bourré. Vas-y.
Oui, donc par exemple, on était parti sur une histoire de mouton bionique. Donc il lui arrivait tout un tas de choses. Et puis à la fin, personne ne savait comment finir l'histoire, puisque tout le monde avait une carte. Ils se marièrent, ayant beaucoup d'enfants. Bon, voilà. Et il se trouve que j'avais une carte sur une bergère. Donc je l'ai posée glorieusement.
Vas-y, mousse-toi. Ouais. Glorieusement.
Voilà.
Et c'est quoi le rapport avec la bergère ?
Bah, c'était un mouton bionique qui retrouvait la bergère.
Ah, et là, elle se marie et a beaucoup d'enfants. Bravo, c'est du propre. Ouais. Bref. D'accord. Et ça a l'air pas... Moi, j'ai un peu de mal avec les jeux...
Juste détail technique sur le point de règle que tu as précisé. On peut poser sa carte dénouement quand on n'a plus de cartes en main. Donc en fait, le but du jeu, c'est un peu de se débarrasser de l'ensemble de ses cartes pour pouvoir poser sa carte dénouement.
D'accord. Et c'est pas trop la baston, justement, comme il n'y a pas des règles précises, entre guillemets.
Il y a des règles très précises sur
l'interprétation.
Ouais, ça dépend beaucoup des joueurs.
Le problème, c'est quoi après le problème de la cohérence qui permet d'interrompre
aussi.
C'est ça,
aussi, la cohérence.
Faut faire très attention avec qui tu joues, quoi.
La question de la cohérence.
Sur... avec des gens bon esprit. Ouais.
Si je me trompe pas, dans les règles, ils disent un truc du genre si jamais quelqu'un dit quelque chose d'absolument incohérent, bien évidemment, ça peut pas. Enfin, faut arrêter, enfin, il repioche des cartes, machin. Pour savoir si la chose est cohérente, ne vous posez pas de questions. Au moment où quelqu'un dira quelque chose d'incohérent, les huées de l'ensemble des autres joueurs ne vous laisseront aucun doute.
C'est un peu le souci de ce jeu, c'est que il y a deux soucis à ce jeu, c'est qu'il est trop permissif, et donc les gens qui n'ont pas de bagou, qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et tout, ils vont se retrouver un peu largués, ils n'oseront pas couper les autres. Et l'autre problème... Merde, tu parlais quoi ?
Là, je t'interromps.
C'est qu'il y a un seul problème.
Non, tu venais de dire un truc.
C'était trop permissif.
Bah non, mais au niveau de définir justement est-ce que c'est cohérent ou pas, peut-être. Non ?
T'as vu faire des gens de mauvaise foi ou qui posent leur carte trop vite, ils disent « Ah, et là, sur le bord du chemin, ils voient une épée, ils posent une carte épée, puis ils n'en parlent plus, quoi. »
Ouais, alors ça aussi, ça c'est... Enfin bon,
ou l'accumulation
ça, c'est
de...
interdit en théorie. Et justement, l'autre problème, c'est que tu peux très facilement avoir des abus parce que t'as quelqu'un qui... je sais pas. Enfin, les règles sont trop permissives et suivant les gens avec qui tu joues, tu peux te retrouver avec des parties qui sont bien pourries.
Pour moi, la question de savoir si c'est une partie pourrie ou pas se juge à la qualité de l'histoire qui est produite et non pas à l'aspect ludique, ce qui serait le cas dans un autre jeu. Mais je pense que ça peut se jouer de plein de manières différentes et ça dépend un petit peu des joueurs.
C'est pour ça aussi que je disais que le but du jeu, c'est plus de raconter une belle histoire plutôt que de vouloir gagner absolument. Parce que si tu veux gagner absolument et que ton histoire, au final, elle est pourrie, je considère que c'est pas.
Ouais, mais
c'est
si
pas
tu laisses parler une personne pendant toute la partie et qu'il n'y a pas d'interruption, il peut faire une très belle histoire, on s'emmerde. Hein.
Pratiquement parlant, généralement, un même joueur. Si on laisse parler sans arrêt depuis le début, va au bout d'un moment s'arrêter de lui-même. Sauf si c'est moi.
Je ne peux pas jouer avec vous. Quoi.
Tu peux y aller jusqu'à la fin. Mais le problème, ça reste quand même qu'il laisse trop de pouvoir aux joueurs et les gens se sentent parfois un peu perdus. C'est pour ça que ce problème a été très bien résolu dans le deuxième jeu de la génération suivante, qui est Oui au Seigneur des Ténèbres.
Oui au Seigneur des Ténèbres.
Parce qu'il y a
ténèbres,
un MJ en gros.
Dont je vais parler. Alors oui au Seigneur des Ténèbres, c'est un petit peu le même principe qu'il était une fois. C'est-à-dire que c'est un jeu de société où on doit raconter une histoire. Sauf que, bon déjà, on change un peu d'univers. Dans Il était une fois, on était clairement dans l'univers du conte. Dans Oui Seigneur des Ténèbres, on tombe dans grosso modo de l'heroic fantasy façon Nullbuck, un peu second degré. Ça se sent aux cartes, aux illustrations, etc.
C'est aux règles même.
Et aux règles, c'est un peu moins poétique. Et puis il y a un pitch qui est imposé, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui est le Seigneur des Ténèbres, et les autres joueurs sont ces larbins que le Seigneur des Ténèbres a envoyé effectuer une mission, qui est déterminée en début de partie par le Seigneur des Ténèbres, qu'ils ont lamentablement foiré. Le but du jeu pour Lady Larbin d'expliquer pourquoi est-ce que, pour chaque larbin, et d'expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas de sa faute, mais de la faute des autres larbins si la mission a échoué. Le Seigneur des Ténèbres est seul juge, c'est une espèce de MJ tout puissant, donner des mauvais points aux larbins, et le premier larbin qui a 3 mauvais points perd la partie, et la partie s'arrête. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de carte dénouement, il y a toujours des petites cartes avec des illustrations nous donner des idées sur quoi dire, si ce n'est que bon, les règles sont encore plus permissives au niveau des cartes, dans le sens où il n'y a pas une nécessité absolue de les écouter, de les écouler. Et on en repioche sans arrêt, ce qui fait qu'on n'est jamais à court, on n'est jamais à court de cartes. Et il y a un autre type de carte qui nous sert à passer la main à quelqu'un d'autre, à l'enfoncer, etc., à accuser quelqu'un d'autre. Au final, ça donne un jeu...
Voilà, vas-y, Krilin, c'est, ouais. C'est ça qui est important, comparé à l'autre, c'est que, autant dans Il était une fois, le but était de prendre la parole, ce qui est parfois dur pour les gens qui n'ont pas beaucoup de magouts, autant... dans Oui Seigneur des Ténèbres, le but est de donner la parole. Donc quand on la reçoit, on se sent pas obligé de on se sent pas obligé de couper quelqu'un, etc.
Ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir deux utilisations justement de la parole. Soit tu veux t'en débarrasser parce que tu penses que c'est le défavorable, soit tu essaies de la prendre pour essayer d'enfoncer quelqu'un. Donc il y a plusieurs tactiques et que quelqu'un peut bien utiliser en prenant la parole, quelqu'un peut mal se débrouiller, un qui va être discret va réussir à bien sortir, l'autre qui va...
Alors, pratiquement parlant, je pense que c'est quand même très légèrement, c'est kiff-kiff et ça dépend des joueurs, mais en moyenne, je pense que c'est un tout petit peu moins accessible quand même que Il était une fois. Dans le sens où c'est plus violent, dans Il était une fois, t'es gentiment en train de... Ouais, tu prends la parole un peu... quand t'as envie de la prendre et tu racontes gentiment une histoire, tandis que dans Oui Seigneur des Ténèbres, t'as quelqu'un qui est en train de te dire ouais, c'est toi qui a jeté toutes nos armes à la mer en criant ouais, je veux tous vous tuer, de toute façon vous êtes des merdes et moi je travaille pour la gentille princesse qu'on devait tuer. Là, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui est peu habitué à l'univers des jeux de rôle, peu habitué à, qui a pas énormément de tchatch, de temps en temps il reste pétrifié, il sait pas trop quoi dire, ce qui se produit moins dans Il était une fois.
Ça se produit souvent dans Il était une fois parce que t'es obligé de d'aller vers ta fin. Et t'as des objets, t'as des cartes qui ont absolument rien à voir. Et c'est souvent que, comme tu le disais, les joueurs s'épuisent d'eux-mêmes. Ils sont en train de parler. Leur but du jeu, c'est de parler pour arriver à poser des cartes. Et ils s'arrêtent parce qu'ils savent plus où aller.
C'est quand même plus accessible que Oui Seigneur des Ténèbres, dans le sens où déjà dans Il était une fois, quand tu dois parler, tu sais quand tu vas parler. Donc t'as le temps de préparer ton truc.
T'as vu tes
cartes. Non, c'est de l'interruption. Donc.
T'as vu tes cartes.
Alors, attends. Quand tu interromps, tu sais ce que tu vas dire. Donc, peu importe. Tu interromps, tu sais ce que tu vas dire et voilà, c'est toi qui prends la parole. Si jamais t'as pas d'idée sur ce que tu vas dire, le temps que le tour arrive jusqu'à toi, tu vois quand est-ce que.
Ah, mais t'es obligé de recomposer avec ce que rajoutent les autres.
T'es obligé de recomposer, mais t'as pas la surprise de dire. Enfin, d'avoir le mec qui va t'agresser en te disant vas-y, maintenant parle, toi.
Tu sais que ça va être à toi de parler, tu connais certains indices, à savoir tes objets, alors que dans Seigneur des Ténèbres, ça peut te tomber sur le coin de la gueule et la conversation peut ne vraiment, tu n'as aucune idée sur ce qu'on va te dire, quoi. Donc pour moi, les deux sont difficiles, mais il y en a un qui est quand même un peu plus difficile à improviser.
Alors
Au niveau des avantages de Oui Seigneur des Ténèbres, je finis vite fait, hein, parce que c'était ce que je voulais dire en intro. Un avantage qui est assez sympa, je trouve, c'est étrangement, les histoires sont en moyenne plus cohérentes que Il était une fois, entre autres parce que t'as un MJ pour animer les choses,
et
etc.
Et puis les objets forcent à partir dans tous les sens.
Mais par contre, généralement, elles ne se terminent pas. Parce que ça s'arrête quand il y a quelqu'un qui se fait accuser, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, tu as des histoires plus cohérentes, mais pas terminées. Krilin, tu voulais parler.
Oui, alors justement, pour ceux qui trouvent que c'est un peu trop jeu de rôle Heroic Fantasy, Oui au Seigneur des Ténèbres existe aussi en version mafia avec Oui au Noble Parrain. Je sais que tu n'as
honorable ouais.
Honorable parrain. Je sais que toi tu n'as pas aimé, mais moi j'ai entendu aussi d'autres gens qui m'ont dit qu'ils préféraient, justement parce que c'était un peu plus cadré par les cartes et que et puis l'univers de la mafia est peut-être plus facile d'accès pour les novices.
Je suis d'accord, mais le problème c'est que c'est enfin, faut pas dire que Honorable Parrain est un Oui Seigneur des Ténèbres dans l'univers de la mafia. C'est un jeu avec des règles différentes qui sont beaucoup plus mathématiques.
C'est quand même très similaire.
Généralement, en moyenne, plaisent plutôt moins. Enfin, c'est pas exactement le même genre de jeu. Tu vas sur Trick Track, tu regardes la moyenne de Oui Seigneur des Ténèbres et la moyenne de Oui Honorable Parrain. T'as pas vraiment, enfin, t'as genre 5 personnes qui ont noté Oui Honorable Parrain et ça doit être en moyenne à 1 ou 2 étoiles. Tandis que Oui Seigneur des Ténèbres est
T'as vu l'argument de merde qui vient de te sortir.
Qui va noter sur les sites de jeux à part des gens qui justement y jouent beaucoup et sont peut-être attirés par des univers. Ah oui, vas-y.
Je pense que c'est une question de mécanique de jeu.
Je pense que l'argument était foireux. Apparemment, c'est deux jeux un peu différents. Peut-être que vous mettrez un petit résumé pour et puis que les gens le testent. Apparemment, c'est les règles sont quand même différentes.
Oui.
D'accord. Ok. Et quand on est un newbie, vous pensez qu'il vaut mieux commencer par quoi?
Par Il était une fois.
Il était une fois. D'accord. Ok.
Ouais. Oui. Enfin, sans doute, mais en même temps,
jouer pas Il était une fois avec n'importe qui. Moi, j'ai passé des parties fantastiques où on s'est éclaté, et j'ai passé des parties dramatiques où vraiment on voulait que ça s'arrête.
C'est
pareil avec Oui Seigneur des Ténèbres, je pense.
Ouais, je pense que j'ai jamais joué à Seigneur des Ténèbres. Mais...
Instinctivement, j'aurais tendance à dire qu'Il était une fois est plus accessible, mais après, là encore, ça dépend avec qui tu joues, quoi.
Ouais, mais le truc, c'est qu'Il était une fois repose vraiment uniquement sur les joueurs, alors que Oui Seigneur des Ténèbres, t'as toujours le truc de dire oui, mais. Enfin, c'est le principe, quoi.
Ouais,
t'essayes de rebondir.
Après,
c'est vrai que j'ai testé les deux avec des gamins. Et Oui Seigneur des Ténèbres marche globalement mieux. Enfin, ça fait pas des histoires super élaborées, mais ça.
Bah, je pense que c'est la motivation du simplement tu dois enfoncer l'autre qui dans la nature humaine.
Oui,
fait
mais
que
non,
tu
en fait, non, c'est pas du tout ça. Non, ça c'est un truc de grand, je crois, hein, ou un truc de toi en fait. Mais les gamins
sont
pas ça. Hein.
Je suis grand.
Oui, non, mais je sais, mais dans le cadre du jeu, il y en a aucun qui m'a fait ça. Hein.
Non, mais entre eux.
Non, entre eux, oui, je suis d'accord, mais bon.
C'est parce qu'ils ont peur de toi.
Faut pas jouer avec vous.
Et y a de quoi.
Ah hein. Oh, la vache, elle a des grosses griffes.
Vite fait, ce qui est sympa aussi, c'est que Oui Seigneur des Ténèbres peut être vaguement une simili-initiation à quelque chose qui ressemble un tout petit peu à du jeu de rôle.
Voilà, mais en même temps, il faut aussi avoir certaines capacités. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple parce que. Ça peut au contraire dégoûter peut-être du jeu de rôle dans le sens où on te présente d'abord la principale difficulté qui est improviser un truc total tout seul.
C'est pas total tout seul, t'as des cartes, t'as des idées.
Oui, mais alors que jeu de rôle,
t'as
le droit de fermer ta gueule, t'écoutes le MJ, tu réagis quand tu veux. Il y a des trucs un peu tangibles avec des petites règles et des petites idées. Je suis pas sûr que ce soit une meilleure idée pour le.
C'est une manière d'initier au moins un aspect du jeu de rôle. Moi, je trouve que c'est une manière sympa, mais après, ça se débat.
Je pense que Krilin
a très envie de parler de son jeu et je pense qu'il a raison vu qu'on a pas mal de temps.
Il l'a même sorti.
Alors, il est prêt à faire une partie.
À côté, dans la famille des jeux imaginatifs, à côté de tous ceux où tu racontes des histoires, il y a aussi toute la famille des Link et compagnie, donc qu'on a fait gagner à l'épisode précédent, où là le but c'est plus. Alors, Link en 2 secondes, c'est essayer de reconnaître quelqu'un par des mots qu'on a en commun. Genre, par exemple, les deux, chacun va dire des mots et les deux personnes doivent se reconnaître en disant botte, en faisant penser à une botte chacun. Donc, il y en a un qui veut dire asperge.
J'ai rien compris.
Ouais, enfin bon, c'est.
Je pense qu'on vous fera un article approfondissement, peut-être un peu à part et bien détaillé, en rajoutant quelques jeux en plus, parce que je crois qu'on en a tous un peu en tête, ouais. qu'on pourra détailler un petit peu sur le,
ouais,
sur le blog.
Je me disais que c'était bête quand même de l'avoir fait gagner sans avoir expliqué ce que c'était. Alors celui que je vais présenter, moi, c'est un jeu qui s'appelle Dixit. Donc le principe de Dixit, c'est que chaque joueur a des cartes.
Aïe.
Il y a un des joueurs...
J'ai une femme qui a l'air d'incanter une pomme.
Voilà, donc chaque joueur a des cartes. Donc toutes ces cartes ont des images qui sont très étranges. Il y a plein de détails sur ces cartes. Là, il y a une fille qui tient un ballon sur un carrelage avec des espèces d'arbres sur les côtés. Donc c'est des cartes.
C'est chelou.
Ouais, c'est chelou.
Les dessins sont assez. Poétique, on va dire. On est plus dans l'univers du...
Poétique dans le sens imprécis du terme.
Poétique dans le sens poétique.
On n'est pas dans Naël, là, clairement pas.
Ouais, ah non, voilà. non, clairement pas.
Donc là, par exemple, il y a un escargot en bas d'un escalier en colimaçon. Enfin. Et donc, il y a une personne qui va poser une carte face cachée et qui va dire un mot, une phrase, une expression, n'importe quoi. Par exemple, Nicolas Flamel.
Alchimie, Harry Potter. Chut,
mais justement, là, il faut absolument rien dire, sinon ça fausse tout. Et tous les autres vont prendre une de leurs 6 cartes en main et la poser face cachée. Là, on va tout mélanger.
Oui, ils vont prendre la 6 celle de leurs 6 cartes qui leur évoque le plus le mot.
Voilà. Et on va tous les mélanger et les poser face visible. Et là, pour chacun des joueurs qui n'a pas parlé au début, il va falloir essayer de retrouver quelle est la carte originale que la première personne a mise. Donc, tous ceux qui retrouvent la carte marquent des points. Tous ceux qui ont fait croire que leur carte était la bonne marquent des points. Et la personne dont on a retrouvé la carte marque des points si, seulement si, des gens, mais pas tout le monde, ont retrouvé sa carte. C'est-à-dire que si je dis Nicolas Flamel et que tout le monde retrouve la carte ou personne, alors je ne marque pas de points et tous les autres en marquent. Parce que ça veut dire soit que j'ai fait trop difficile, soit que j'ai fait trop facile.
Évident.
En fait, c'est un peu comme le dictionnaire, mais en plus fin et moins lourd avec des blagues. Quoi.
Oui.
Non?
Oui, oui.
Ça vend du rêve, hein, ce que tu viens de dire, ça.
C'est non, mais je veux dire, les cartes permettent tellement de choses que ça permet vraiment des interprétations. Et ce qui est.
Les cartes, je vais revenir dessus. J'ai dit tout à l'heure qu'on était dans l'univers du conte. J'ai un meilleur mot, les cartes sont oniriques.
Exactement, ouais. Ouais, c'est très ça. C'est très, très ça. Et donc, en fait, par exemple, si on fait une référence à la Bible. Comme disons Adam et Ève, il va y en avoir, je sais pas, il est très possible d'en avoir 4 ou 5 qui s'y rapportent. Et là, pour retrouver la bonne, ça va vraiment être difficile. Donc c'est très très sympa à jouer. Ça donne souvent des résultats inattendus. Et
ça donne vaguement un tout petit peu l'impression d'être chez le psy à certains moments, mais c'est
peut-être.
C'est
quoi,
assez rigolo.
T'associes ça à
justement,
ça.
Justement, ça fait du bien.
Et surtout, c'est très original. J'ai jamais vu de jeu similaire.
Non, franchement, les dessins sont vraiment sympas. Hein. C'est autant dans la composition que la qualité. C'est vraiment.
Et puis souvent, ils sont très. Il y a beaucoup de choses, donc on peut s'attacher à la fois à un tout petit détail comme à l'impression globale de la carte. Voilà.
Très sympa. Rien qu'à les regarder, c'est sympa. Et ça se termine quand t'as un certain nombre de points, ça?
Alors, le jeu original dit que ça se termine quand on a fini les cartes.
Ça a l'air d'être très long.
Non, parce que ça va vite.
Pratiquement parlant, tu peux en faire un tour comme tu peux en faire
50. Voilà, nous on
50,
fait une à trois tours en général. Quand on joue à 5, un tour ça dure 20 minutes. Donc,
20 minutes
un tour de table, tu veux
un
dire.
Tour de table.
Ah oui, d'accord, ok.
D'accord,
ouais.
Oui, ça peut être quand même assez long. Et oui, donc tous ces jeux-là tiennent...
Un tour de table, c'est si tu veux, c'est
à eux à 5, c'est 5 personnes qui présentent un mot. Donc c'est, ouais.
Et donc, en gros, c'est tous des jeux qui tiennent dans la poche. C'est des jeux de cartes, des petites boîtes.
Alors, la boîte de Dixit est très volumineuse.
Alors, la boîte de Dixit est très volumineuse. Et vous pouvez l'acheter puisqu'elle ne sert à rien. En gros, elle contient juste des cartes, un plateau qui est inadapté au comptage des points. Donc, il vaut mieux juste garder les cartes, les petits cartons pour déterminer pourquoi on vote, entre guillemets. Et puis, juste prendre un papier, un crayon.
Une fois que tu as retiré tout ce qui est
inutile. Ce qui est très dommage, nous on a fait qu'une ou deux parties. Mais ce qui est très dommage au niveau du truc pour compter les points, c'est que je crois que c'est limité à combien 7 joueurs ou un truc comme ça. Alors que ça pourrait très bien jouer à plus. Et nous, en l'occurrence, on a joué à plus. Donc, non seulement le plateau servait pas à grand chose, mais en plus, les compteurs de points étaient, les marqueurs étaient pas adaptés parce qu'on
surtout
était trop
nombreux. Le plateau monte à 30, ce qui est ridicule. 30.
D'accord. Donc, une fois qu'on a supprimé toutes les parties qui servent à rien, c'est comme les autres jeux, ça tient, dans le sac. C'est un jeu de cartes. Un gros jeu de tarot, quoi.
L'extension. Alors, vous pouvez d'ailleurs n'acheter que l'extension, qui vaut 35 euros, contrairement au jeu de base qui vaut 50. Il y a autant de cartes. Et ça vaut vraiment le coup. En France, le jeu est lié, le prix du jeu est lié à son format, indépendamment de tout ce qu'il contient. Une grosse boîte, 50 euros.
Oui, donc là, tu sens qu'ils ont mis une grosse boîte autour
pour le vendre plus cher.
Mais en même temps, l'artwork et tout est quand même sympa. Mais
Là, c'est l'extension que tu nous as montré.
Non, là, c'est un mix des cartes à la fois de l'extension et du jeu.
Mais c'est dans la boîte de l'extension, non?
Oui, parce que pour les transporter, c'est plus simple.
D'accord, donc achetez l'extension, comme ça vous aurez que la boîte peinard.
Par contre, je pense que vous n'aurez pas les règles dans l'extension.
Il n'y aura pas les règles, il n'y aura pas les petits cartons pour voter. Mais bon, ça se fabrique, c'est pas.
Si vous êtes à la dèche, c'est possible.
Voilà.
Ok, et ben merci. Alors, celui-là, il me tente pas mal, le dernier, la Dixit. Moi, je suis pas très fan des jeux. C'est vraiment parce que je fais beaucoup de jeux de rôle, j'aime bien l'imagination, mais il y a un truc qui me bloque, en fait.
Pierre, dans un jeu de rôle, aime bien pouvoir gagner, c'est vaincre les autres.
Non, il y a pas
détruire.
Non, il n'y a pas que ça, c'est. Ce que j'aime.
Je pense qu'il y a un peu de ça, quand même.
Non, mais j'essaie de regarder l'imagination. C'est pas. Tous ces jeux-là que vous avez montrés, on peut très bien essayer de gagner, c'est pas le problème. Même si les jeux t'ont pas envie de gagner, tu peux essayer de pourrir le jeu et gagner. C'est comme dans tous les jeux. C'est que je trouve que la création imaginative est un petit peu artificielle.
Oui.
Moi, ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est l'imagination avec un certain pathos personnel et de roleplay. Et donc, l'imagination pour l'imagination qui part dans tous les sens dans ce truc-là, je suis un peu moins fan.
En l'occurrence, moi je trouve que, enfin Dixit, moi ça me tente vachement aussi, mais et que justement c'est celui où t'as le moins, dans le sens où ça
tout à fait.
tu mets toute ton imagination dans un mot, donc ça a beau être vachement plus
ça
poétique.
Ça peut être un mot, une phrase.
Oui, non, mais enfin tu vois ce que je veux dire.
C'est quelqu'un qui joue intégralement en faisant
en
les trois premiers
pages.
Vers. Non, qui fait les trois premiers vers d'une chanson pour chaque carte. Et donc, faut essayer de se rappeler du reste de la chanson et de quel est l'élément important dans la carte.
Tu peux jouer avec des psychopathes.
Et en général, c'est souvent des chansons de Renaud de l'album de Gérard Lambert. Donc, je vous laisse imaginer le niveau. Pour retrouver la même chose sur une carte onirique, c'est pas facile.
Ah la vache. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Et puis, vous mettrez des infos sur le site, sur ces petits jeux et puis les autres dont vous n'avez pas eu le temps de parler. Nous allons conclure parce qu'il est tard.
Tout à fait.
On rappelle que surtout, il faut aller poster des commentaires sur iTunes avec 5 étoiles.
Hein. Répondre au sondage.
Le sondage de Xil, très important.
Hein, dans les deux cas, il y a des cadeaux à gagner.
Surtout que maintenant, c'est les derniers
si
moments
les deux,
pour le
deux cadeaux à gagner.
Mis à part les cadeaux, sans déconner, il n'y a pas que les cadeaux dans la vie. Il y a aussi le fait que nous, c'est vachement important aussi de communiquer un peu avec les auditeurs parce que on fait ça. C'est important d'avoir un retour pour nous motiver parce que mine de rien ça prend un certain temps et puis on est assez intéressé par l'opinion que vous avez sur le podcast, sur certains aspects techniques mais aussi sur les contenus, le format, etc.
Et puis on est un peu comme des petits joueurs de jeux de cartes, on a besoin de petites cartes avec des thématiques pour stimuler notre imagination.
On n'est pas là pour faire du clientélisme mais c'est assez important sur certains aspects pour quand même avoir un retour pour adapter ça bien, d'avoir un œil extérieur. Donc si vous voulez nous soutenir c'est vraiment quelque chose d'important. Pour nous retrouver sur Twitter, il y a Xil qui est @xilrian, moi qui est @MrPiouf, donc MR_Piouf, et maintenant il y a Liliane
@Lenchin, L-E-N-D
S-H-I-N.
Voilà.
Merde, je voulais rester anonyme.
Sur Twitter aussi.
Et ben on pourra le biper.
Exilrian, vous avez vraiment envie d'avoir des gens qui vous suivent, quoi. C'est génial de choisir des noms aussi simples.
Moi aussi,
il y a pire.
Non, mais je voulais pas qu'il y ait des gens qui me suivent.
Il y a bien pire hein, sur Twitter. Bien sûr, le site www.bazincast.com. Voilà, il y a surtout des articles et tout, ça va être sympa. J'espère que normalement, dans l'avion, je pense qu'au même moment où j'aurai écrit un deuxième article un peu sur le podcast, une fois que. Donc, ce sera peut-être avant ou après que ce podcast sonore soit sorti. Voilà, donc c'était toujours un plaisir de passer une petite soirée avec vous. On espère que Micha sera de retour très bientôt, normalement, pour le prochain. Faites revenir Micha, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Et rendez-vous dans 2 semaines avec normalement un bon débat sur le jeu vidéo. Est-ce de l'art, voilà, est-ce de la culture
Un débat enfin préparé, je dirais.
Et les résultats du jeu concours pour le sondage et pour les votes iTunes et autres.
Exactement, puisque tu es vénal, David. Exilé. Ouais. Et ben, sur ce mot de la fin, nous allons vous souhaiter un bon 15 jours et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.
Ciao à tous!
Ciao!
Antoine a refusé ce soir de prendre un verre avec Marie. Elle avait envie de le voir. Elle en avait besoin aussi, oui, mais ce soir c'est pas possible. Il a un rendez-vous important avec une fille hypersensible qui va pas bien en ce moment. Il l'a connue sur internet par un blog sur la solitude. Depuis le mardi, il se mêle, ça efface ses inquiétudes. Oh, le monde est beau, ils font partie du même réseau. Oh, le monde est beau, chaque jour on est plus. Un peu plouc, il n'a que 203 amis inscrits sur son compte Facebook. C'est 26 de moins que Sophie. Et puis comble de l'injustice, Facebook elle y va même plus. Elle dit que ça fait trop 2010. Du coup Paul est un peu perdu. Comme il trouve pas la solution, il s'affale devant la télé. Il est prêt à tout mais au fond, lui ce qu'il voudrait c'est l'embrasser. Seul dans le bateau, François est dégoûté, il craque, il est au bord de la dépression, car il s'est fait piquer son Mac avec tous ses contacts. C'est con, depuis il est sous gardénal, car il lui faudra bien 2 ans pour se refaire une vie sociale et pour retrouver tous ces gens. Antoine, Sophie, Paul et les autres, ses meilleurs amis où qu'ils soient, les siens, oui, peut-être les nôtres, qui souvent ne se connaissent pas. On fait partie du même réseau. Oh, le monde est beau. Chaque jour, on est plus nombreux à être seul dans le bateau.
Grâce à Internet, Camille apprend plein de choses.
Tu viens dîner, ma chérie ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Maman ?
Hein ?
Papa aussi porte des slips en cuir ?
Système de contrôle parental gratuit, une exclusivité AOL.